Vous écoutez
RMC.
RMC.
À un moment de la saison, ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse.
Vous savez qu'on peut commencer la compétition sur des échappeaux de roue.
Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner parce que ça, on en a besoin.
Je me mets dans les roues de Marc Ambrosiane.
Mais oui, parce que...
Comme on dit dans le vélo, je te suce la roue.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue en direct jusqu'à minuit sur RMC, jusqu'à minuit sur la chaîne After Foot TV, jusqu'à minuit sur la chaîne YouTube de l'After, nous sommes partout. L'After toujours première radio de France avec Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Et avec Walid Acherchour, salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
C'est la soirée Jean-Louis Tour.
Ah oui,
quoi,
JLT.
Quatre antennes de suite Jean-Louis.
Ah, oui, ça va, c'est pas le même exercice.
Et j'ai remarqué une différence capillaire moi.
Tu fais le téléthon de l'antenne.
C'est vrai, le projet La Brune est fini.
Oui, là on a arrêté les cheveux longs.
Dégradé progressif. C'est quoi, il y a
on n'est pas dans ça, mais. T'as dit que c'était pas bien
ouais.
Voilà. Non, personne, j'en ai eu marre tout seul.
Ouais.
Ok, très bien. Voilà. C'est la fin de l'aventure.
Prise de décision.
Ouais, ouais.
C'était une belle aventure. Ouais.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est l'OM qui s'effondre. Semaine après semaine. Qui sont les premiers responsables du fiasco marseillais? Débat dans quelques secondes dans l'After. Et en plus, on a des infos à vous donner sur ce qui se passe dans le vestiaire. Daniel veut ensuite développer son avis sur la saison folle de Ligue 1. Et puis à 23 ans, la Coupe d'Europe. Semaine exceptionnelle. Semaine peut-être historique pour le football français avec deux clubs qui peuvent se qualifier en finale. Paris mercredi, Strasbourg jeudi. Walid va donner son avis sur ce que doit faire Luis Enrique mercredi soir. Jean-Louis veut donner son avis sur la saison de Strasbourg. On attend toujours avec impatience les avis de Jean-Louis sur Strasbourg.
Bien sûr.
Ce sera tout à l'heure. Et puis on a.
Ce sera la fin du feuilleton. Il fallait finir cette saison.
Et puis des infos sur le Paris FC également à suivre. Et des avis sur l'avenir pour Antoine Comboiré notamment. Donc le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. On vous attend également sur WhatsApp. Notre numéro, vous le connaissez, 06 12 424 424 pour nous écrire. J'ai la tablette devant les yeux avec tous les messages WhatsApp. Et puis alors, il y a plein de matchs ce soir, notamment en Angleterre. C'est jour férié en Angleterre. Cet après-midi, Chelsea a encore perdu 3-1 face à Nottingham Forest. Le tout à Chelsea, avec Sells qui a arrêté un péno notamment. Ce soir, City à la mi-temps mène 1-0 sur la pelouse
très important.
D'Everton. Exactement, match important. Pour l'instant, City gagne. En Espagne...
But magnifique de Doku,
ouais.
Du gauche.
Exact. Frappe de
Il
Doku.
Il a valu ce commentaire. Il sait faire ça, Doku.
Non, mais c'était
de Jean-Louis.
Mais c'était en off, ça. On doit pas le dire.
Ah ouais, il t'a balancé carrément.
C'est Stéphane Guy qui l'a dit en commentant le match.
Mais c'est vrai. Non seulement je ne vais pas le balancer, mais je vais m'associer à Jean-Louis. C'est pour ça que je le fais, pour m'associer à lui.
Tu aurais pu le dire, c'est ça?
Parce que j'ai répondu. Bah oui, visiblement.
Ah là, non, mais j'étais du gauche comme ça.
Donc il s'est frappé. Non,
mais du gauche comme ça.
Ah d'accord, oui, ça frappe. Oui,
je l'ai vu.
Oui. C'est un très très beau but.
Voilà. C'est tout.
Sinon, en Espagne, Séville, Real Sociedad 0-0. Pourquoi on suit ce match? Parce que Séville pourrait descendre en Ligue 2.
Ah, ça pue. Ouais. Hein.
Ce qui serait quand même, pour un club multititré, un vrai couac.
Ah, les belles aventures de la fin des années 2000.
Ouais. Et puis en Italie,
régalé, moi.
En Italie, la Roma amène 3-0 face à la Fiorentina. Roma qui lutte pour les places européennes. Et puis je vous signale aussi que le Sporting mène 2-0 au Portugal face à Guimarães dans la lutte à la Ligue des Champions. Voilà, pour les matchs européens du soir. L'OM, on y va tout de suite et on vous attend, supporters marseillais, au 32-16. J'ai quelques infos à vous donner, les gars, avant que le débat ne démarre. Info déjà de Fabrice Hawkins, qui est de retour et qui a repris les enquêtes de terrain et qui nous raconte ce qui se passe dans le vestiaire de l'OM. Il confirme certaines choses, il en révèle d'autres. Déjà, il confirme que Abdelli est définitivement au placard. Il ne rejouera pas jusqu'à la fin de la saison. Bon, notamment suite à l'altercation avec Habib Bey.
A-t-il déjà joué cette année? À part à Angers, je veux dire.
On pourra en effet se poser la question. Autre chose, des joueurs sont pointés du doigt dans le vestiaire par les autres. En mode, ils n'en ont plus rien à foutre. La liste est celle-ci. Mason Greenwood, Benjamin Pavard, Pierre-Emile Højbjerg. Qui donc, apparemment, ne font même plus semblant d'y être.
C'est des petits salaires. Hein,
on avait remarqué.
Oui, c'est des petits statuts, petits salaires.
On avait remarqué.
Ouais. Bon,
pour l'instant, rien de surprenant. Mais bravo, Fabrice.
Des confirmations, quoi.
Absolument.
Fabrice qui nous signale que ce soir, les joueurs dorment à la commanderie. Donc là,
c'est Ritiro à la commanderie.
C'est la pension, c'est les choristes.
Le mode militaire continue. Et personne,
action, réaction.
Et personne ne sait quand la mise au vert va se terminer.
Ouais, peut-être en fin de saison, quoi.
Ouais.
Il reste deux matchs.
Peut-être sur là pour 15 jours. Ouais, ouais. Mec.
Voilà. Ça a l'air de fonctionner en tout cas.
T'as raison. Ouais. Bon, voilà pour les infos de Fabrice Hawkins. Ce soir, par ailleurs, pour compléter le tableau noir de l'OM, l'équipe sort un papier nous expliquant que l'OM ne respecte pas le règlement signé avec l'UEFA en 2002. Il faut rappeler ce qui s'est passé 2022. En 2022. Pardon. Rappeler ce qui s'est passé en 2022. L'OM était en dehors des clous et a donc signé un accord de règlement. Oui, ils avaient pris une amende à l'époque, hein, 2 millions d'euros d'amende, dont une partie de l'amende avec sursis. L'OM s'engageait alors à revenir à l'équilibre financier dans les clous du fair play financier, c'est-à-dire déficit qui n'excède pas 60 millions d'euros sur les trois saisons suivantes. Or, ce n'a pas été respecté, on l'a vu avec les derniers chiffres de la DNCG. Donc là, l'UEFA pourrait intervenir avec une éventuelle, c'est la sanction habituelle, exclusion des Coupes d'Europe. Alors vous allez me dire peut-être qu'ils iront même pas peut-être en Coupe d'Europe, donc tu vas pas te faire exclure d'un truc où tu n'es pas qualifié. Enfin, ça veut dire qu'on ajoute encore un problème à tous les problèmes sportifs, de gouvernance et autres, divers et variés de Marseille. Voilà les infos du jour. En gros, il y a zéro bonne nouvelle à Marseille. Et puis surtout, après avoir parlé du match face à Nantes ce week-end, Walid, t'étais là oui. Samedi soir.
J'ai mis une grosse charge samedi soir.
Il faut qu'on essaie de faire un petit tour de table sur leurs responsabilités, parce que c'est marrant. Certains pointent du doigt les joueurs, d'autres Mehdi Benatia, d'autres Habib Bey, d'autres McCourt. Bon, peut-être compliqué de se faire une idée dans ce magma là, mais vous en avez sûrement une. Qui veut démarrer ?
Bah, écoute, je vois difficilement comment on peut pointer une seule responsabilité. Tu mets chaque personne du club, tu commences par le président, parce que dans n'importe quelle entreprise, on dit que le premier responsable, c'est quand même le patron. Donc le patron du club, c'est Franck McCourt. A-t-il pris les bonnes décisions récemment ? En tout cas, ce que je peux te dire, et c'est une autre information avant de développer mon avis, c'est qu'il est très très en colère, que lui aussi milite pour l'enfermement des joueurs là. Décision qui ne satisfait pas Habib Bey. Lui, il n'est pas pour cette solution-là, parce que de toute façon, il sait que le groupe ne suit pas et que le groupe n'est pas, en tout cas, c'est dans un groupe, c'est pas la peine de chercher si c'est moitié-moitié, un quart, trois quarts, un tiers, deux tiers. Il suffit que t'en aies trois dans une équipe qui joue pas, c'est mort, hein. C'est fini, hein. C'est comme pour quand on refait l'histoire du fameux PSG Bordeaux de 99, quand on dit, ils ont tous arrêté de jouer. Non, il suffisait qu'il y en ait deux, c'est suffisait, hein.
Surtout donc, vu l'importance de certains.
Voilà.
Dans les deux
donc,
trois.
Donc, il suffit que ce soit comme ça. Dans un vestiaire, c'est mort, hein. La performance, tu vas pas la chercher avec 7-8 mecs dans un groupe où t'en as qui sont à l'écart, une autre partie qui cherche à savoir ce qu'ils vont faire l'année prochaine.
Sont, c'est un groupe rempli de clans.
Qui ont commandé les agents
pour un
club machin. Le clan là, on peut pas se blairer et tout ça. Donc voilà. Déjà le vestiaire, c'est mort. Donc j'en reviens à Franck McCourt qui donc lui est pour l'enfermement. On va dire, je sais pas trop comment dire ça. La vengeance sur les joueurs, on va dire. On va vous le faire payer, en gros. Vous êtes payé des énormes salaires. Ce que vous faites est absolument honteux. On va vous faire payer. Ce qui est également la ligne de Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est quelqu'un qui est très respecté dans le monde du foot pour ce qu'il a fait en tant que joueur et le caractère qu'il avait. Ça a marché ensuite pour lui, même quand il était agent. Dirigeant, directeur sportif, on l'a découvert. Il a une méthode qui peut fonctionner quand il emmène derrière lui. Maintenant, s'il y a des accros, c'est pas entendre. On peut aimer ou ne pas aimer. Moi, j'avoue que quand je vois certaines attitudes de joueurs, et c'est pour ça que je pense que je ne pourrais pas être dirigeant. Clairement. Parce que c'est exactement comme quand je pétais un câble et que je voyais certaines équipes de Ligue 1 perdre contre des équipes de National en Coupe de France. Le fameux « oui, ça peut arriver », le fameux « des grêlons » quand on rigolait de ça avec Jean Bretagne à l'époque. Moi, ça, je pète un câble, en fait. Moi, je pense que... Mais moi, je le dis, je ne pourrais pas... Et parfois, je me dis que Mehdi Benatia, si ça tourne, je pense qu'il peut être extraordinaire parce qu'il peut emmener avec lui, parce qu'il a un réseau pour faire venir du monde. Pour... Mais si ça marche pas, vu son caractère... Moi, je pense et c'est ce qui s'est passé à mon sens. Il a pété un câble, et notamment avec certains joueurs, où il est en frontal direct, notamment Greenwood. Une attitude aussi indigne, moi, je pense qu'il ne peut pas supporter. Et je pense que. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne décision. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis qu'il y a des choses qu'il ne doit pas supporter. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne décision, mais je sais pourquoi il le fait. C'est parce qu'il estime que les mecs sont tellement honteux, parce que je pense que personne. ne peut concevoir dans le foot d'aujourd'hui que enfermer les mecs une semaine, deux semaines, faire un stage machin, ce soit comme ça que ça marche.
Après, faut dire aussi que Mehdi Benatia, il a eu aussi un.
Donc il est dans l'idée de je veux leur faire payer.
Il a été à l'école de la Juventus où quand ça se passait très très mal, il y avait beaucoup
c'était
de
gros.
C'était la méthode et qu'il estime que et il était déjà.
Mais ça veut pas dire que ça marche, surtout dans le football actuel. Attention.
Et dans la nouvelle génération, le problème c'est que quand c'est caricatural, est-ce que aujourd'hui les nouveaux joueurs avec ce qu'ils pensent du football et même où ils sont très auto-centrés, ben on voit bien que depuis un moment ça ne marche pas.
Non mais puis ça peut marcher s'il y a encore de l'autorité. Or l'autorité a été sapée et par le fait que Benatia va partir.
Parce que lui-même a dit je m'en vais.
Voilà. Ouais. Donc tu peux crier autant que tu veux, tu peux les enfermer autant que tu veux.
C'est un démissionnaire. C'est un démissionnaire.
Les joueurs, ils auraient plus peur si quelqu'un leur disait toi je te vire pour l'année prochaine. Mais on sait que de toute façon c'est d'autres gens qui décideront.
C'est pour ça que les joueurs, le comportement des joueurs contre Lorient et contre Nantes sont honteux et on l'a expliqué à plusieurs reprises. C'est une faute professionnelle. Quand tu vois le comportement de certains, Greenwood ou autres, il n'y a plus d'amour propre, il y a une indignité. Maintenant, la réalité,
c'est limite, ils font exprès.
Ah oui, mais de toute façon, là, c'est trop, trop visible. Là, et moi, j'ai une analyse, c'est que les péripéties qui ont conduit à ça, parce que jamais je n'aurais imaginé l'Olympique de Marseille à cette place-là, il y a un mois et demi, deux mois, c'est que l'enchaînement, départ de Pablo Longoria, démission de Mehdi Benatia, le départ de Roberto De Zerbi, où énormément de joueurs sont venus pour ce projet-là à trois qui a complètement explosé en vol, plus le retour de Mehdi Benatia qui revient avec Habib Bey, qui est un coach qui n'est pas méconnu, mais en tout cas pour beaucoup dans le vestiaire, ils ne sont pas venus pour lui. Moi, j'ai le sentiment que certains joueurs veulent faire payer à Mehdi Benatia ou à la direction ou à Habib Bey.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les joueurs, pour sauver De Zerbi?
Ben c'est ça. Mais
est-ce que tu as en mémoire le nombre de fois où Roberto De Zerbi en conf s'est présenté en disant cette phrase? Je ne comprends pas.
Non, mais c'est pour ça qu'en fait, personne ne comprend. Personne ne comprend.
C'est lui-même. C'est moi, quand on me dit les joueurs, ils sont venus pour lui, ou les joueurs n'ont pas compris qu'il se barre et tout. D'abord, il s'est barré, il est à Tottenham, il est dans une opéra. C'est terminé pour lui. Il est passé complètement autre chose. Donc en fait, le foot, on va pas le répéter chaque semaine, c'est chacun pour sa gueule.
Bien sûr. Donc, Longoria est parti, Mehdi devait partir.
Il est parti dans un autre projet. Benatia est un démissionnaire encore en fonction. Et on a Habib Bey qui est là. Tout seul dans un bourbier énorme. Lui, il s'est dit, je peux pas refuser l'OM. J'y vais. Parce que, ce qui s'est passé à Rennes, machin, j'y vais. Bon, ça marche pas, il y arrive pas, il est en situation d'échec, c'est terrible. Tous ceux qui disent aujourd'hui, est le seul responsable ou le taille, il est pas légitime, c'est des conneries énormissimes de dire un truc pareil.
Sur la chronologie,
il faut être complètement bête.
Non, mais pour revenir sur la chronologie très rapidement, c'est que à partir du moment où donc Mehdi Benatia a construit cet effectif, et t'as raison d'insister là-dessus sur le point de départ de De Zerbi, où déjà sous De Zerbi, il y a eu des trahisons, parce que la réalité, c'est que en fait l'OM, c'est l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, c'est-à-dire pour trouver l'analyse, tu sais pas quel est le point de départ. Est-ce que De Zerbi a lâché le groupe ou le groupe a lâché De Zerbi? Déjà dans un premier temps, parce qu'il y a eu Nantes en janvier, d'accord. Après il y a eu le Koweït, d'accord, où ça s'est très très bien passé. Il y avait cette irrégularité tous les deux matchs, tous les trois matchs, et De Zerbi en conférence de presse.
Je ne comprenais pas.
Ensuite il y a eu Bruges.
Attends, juste sur cette période Walid quand même. On n'était quand même pas dans la même chose, dans le même niveau. C'est la catastrophe et tout. Et peut-être qu'à ce moment-là, on a manqué un peu de discernement, de sang-froid pour analyser correctement les choses. On avait l'impression qu'à chaque fois le monde s'effondrait et on se rend compte aujourd'hui que c'était pas si catastrophique ce qui se passait à Marseille.
J'allais y venir. L'irrégularité existait déjà à ce moment-là.
Oui.
Après ensuite il y a eu des prises de parole, notamment celle de Mehdi Benatia.
Aujourd'hui j'aimerais bien voir cette irrégularité.
Bien évidemment. Je vais y venir Jean-Louis. C'est-à-dire que à ce moment-là il y avait eu des prises de parole, celle de Mehdi Benatia après le Koweït où il avait expliqué notamment les médias énervés alors que ce soir-là c'était quand même une bonne image de l'Olympique de Marseille et que en gros les prochains qui allaient arriver allaient avoir les mêmes problèmes, etc. Derrière, il y a eu la prise de parole de Roberto De Zerbi sur le passeport après Lens, où eux aussi ont cultivé, bien évidemment, cette communication
Ils se sont mis dedans en termes de communication.
Exactement.
Qui se sont mis dedans.
Entre temps, il y a eu donc cette trahison avec Nantes. Nantes au match aller, Bruges le 3-0 où Mehdi Benatia a repris la parole à ce moment-là en disant regardez-vous dans une glace, vous avez 500 matchs, 400 matchs, etc. Deux semaines après, qu'est-ce qui se passe? Le PSG, la deuxième mi-temps, le 5-0. Déjà, De Zerbi était démissionnaire avant le PFC quand ils ont été à Rambouillet où il a dit qu'il était malade, pas malade, etc. Il voulait déjà se barrer. Semaine d'après, c'était la goutte de trop. Il s'est fait trahir par l'effectif, donc il se barre. Après derrière, Mehdi Benatia, vu que c'est le projet de Roberto De Zerbi, lui aussi se sent trahi, il démissionne Lausanne après Strasbourg. Finalement, McCourt le récupère. Dès qu'il le récupère à ce moment-là, il arrive avec Habib Bey qui est un nouveau coach. Sauf que là, à ce moment-là, il y a une autre erreur pour moi de McCourt et de Benatia, c'est qu'on annonce son départ à la fin de saison. Mmh. Et trois semaines après, on met un nouveau président et on dit que Mehdi Benatia dans le JDD partira à la fin de la saison. Et si tu regardes bien, semaine après semaine, ce groupe ne répond plus. Mehdi Benatia, moi j'étais d'accord avec lui sur ce qu'il avait dit contre Lorient, sauf que le poids qu'il a à ce moment-là dans le vestiaire n'existe plus par rapport au fait qu'il y a un enchaînement. Et moi je suis pas là pour défendre les joueurs, parce que les joueurs c'est intolérable, c'est inacceptable, parce qu'ils sont payés tous les 30 du mois très très cher pour amener les objectifs à l'Olympique de Marseille. Mais il n'y a plus personne.
C'est peut-être une des bases quand même à rappeler.
Ouais, bien, non mais la base c'est petit 1. C'est petit 1.
Parce qu'une fois qu'on a fait toute l'explication, et je pense qu'on a toutes les étapes, mais, et que finalement, aujourd'hui tout est clair. Mais quand tu es joueur de foot quand même, que l'entraîneur ne te plaise pas ou que tu t'embrouilles avec lui, que le directeur sportif soit démissionnaire ou quoi ou qu'est-ce, sur le terrain, tu peux pas livrer une telle prestation.
Bien évidemment,
t'as
mais ça
va.
J'ai fait une heure, moi, samedi
venger,
là-dessus.
T'as pas le droit de te venger du rapport que t'as avec le directeur sportif par rapport aux supporters qui viennent, par rapport à ce que représente un club de
mais
foot.
Mais le football, tu c'est ne ça, pas, c'est
pas,
Daniel.
Pas, en fait, t'es pas un joueur de tennis. Le joueur de tennis, il gère sa carrière et basta. Le joueur de foot, si tu ne le fais pas comprendre, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le fameux concept d'institution est en train de foutre le camp d'un peu
et
partout.
Et les footballeurs ça, sont comme ça maintenant.
C'est mais t'as raison.
Tu vois, c'est
comme l'analyse. Mais
bien évidemment, c'est ça que l'analyse elle est globale.
L'institution c'est terminé. Le concept c'est fini. Les fameuses institutions à l'époque c'était Juve, Milan, Real, c'est terminé.
Tu vois, par exemple, le Ritiro de l'année dernière. Daniel, le Ritiro de l'année dernière à Rome.
Et après plus Bolide.
C'est une idée de Mehdi Benatia pour ressouder.
Sur un vieux modèle.
Non mais ça a fonctionné parce que l'année d'après, tu savais très très bien qu'il y avait une Ligue des Champions à jouer avec De Zerbi, avec Mehdi Benatia. Quand tu regardes aujourd'hui, parce que moi, je veux bien moi entendre la tactique de la stratégie de essayer de se ressouder, de travailler encore plus quand on travaille pas.
Mais
le problème, c'est que on allume la télé, Bein Sport ou Ligue 1 Plus tous les week-ends et le signal que nous envoient les joueurs, c'est pire que tout semaine après semaine. Donc en fait, il y a un moment donné.
Et là, c'est pire. Il y a les mecs ne veulent même plus s'entraîner. Hein.
Mais tu vois même les photos entre Sassuolo et Milan AC, là, des mecs, etc. Sur Instagram, il y a des choses. En fait, il y a des retours du vestiaire qui sont flagrants.
Florian avec nous, 32-16 dans quelques instants pour continuer
le débat
autour de l'OM.
C'est pas normal pour les joueurs se comportent comme
on
ça.
On n'a pas beaucoup parlé d'Habib Bey là parce que peut-être c'était pas
Habib
encore
Bey,
le moment.
Habib Bey, à part les idiots,
attends,
les idiots des réseaux,
on en
personne
après.
Ne devrait en parler en vrai.
Ben justement, c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde parce que les supporters marseillais, eux, en parlent beaucoup. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Lida Cherchorella, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, évidemment vous le savez, semaine spéciale Coupe d'Europe dès demain, mercredi, jeudi sur RMC, on ne rattrape absolument rien, on est sur une semaine de folie, bien sûr, et une fin de saison de folie aussi d'ailleurs, parce que rappelez-vous quand même que dans quasi un mois c'est la Coupe du Monde.
Ah non mais là la fin bien sûr.
Mais moi je suis je rentre en mode je suis commence à être surexcité par la Coupe
les deux multiplex de Ligue 1
avec tous les matins j'y pense
avec l'indécision la Ligue 2 l'issue de la Ligue 2
oui.
Et celui qui vous dit ça c'est quelqu'un qui s'intéresse pas à part maintenant sur les dernières journées.
Je suis d'accord.
On a Kevin Diaz.
T'as toujours été supporter de Rodez.
Kevin Diaz et la N2.
On sait que t'as toujours été supporter de Rodez.
Oui, du président.
Et du reste,
du président.
Le président, il est toujours rendu hommage au président
de
non, c'est bon.
Pourquoi?
Non, parce que
il faut rappeler quand même que c'est un des laquais de la Brune, Murat. Juste parce qu'il y vient manger dans les restos à Paris. Ouais,
en
plus,
son club tourne.
Il vient manger au Murat ou pas?
Excellent. Non, mais Gilbert, c'est toi qui agites le bout de viande en dessous et tu te plains qu'il le mange.
La Conférence Ligue et la Coupe du Monde. Putain, la fin de saison, si elle est pas dingue.
On est max.
Là, on est à fond.
On va kiffer.
Bon, revenons à Marseille. On a Florian qui est là. Salut Florian.
Hey, bonsoir à tous.
Florian, si tu devais établir une hiérarchie de responsabilité à l'OM, comment est-ce que tu l'établirais?
C'est compliqué parce que en fait, Walid a fait la chronologie de tous les événements depuis un quelques bout de temps et je pense que le problème c'est depuis le début en fait que la saison elle est morte. Dès le départ avec l'histoire de Rabiot.
Mais non, ça, arrêtez avec ça. Mais arrêtez avec ça.
Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît.
Mais arrêtez avec ça un mois.
Oui, mais il peut terminer quand même, il a raison. Vas-y, Florian.
Parler un mois après de cette histoire.
Non, mais je sais bien. Et même avec l'argent de Rabiot, tu as pu économiser des salaires.
Mais oui.
C'est le premier club à avoir fait de l'argent sur le dos de Rabiot, comme dit Véronique. Grâce au salaire de Rabiot, tu as pu avoir un milieu de terrain, tu as pu avoir des.
Non, mais la saison n'était pas morte à cause de Rabiot. Rabiot, mais non, c'est la première échec ou le premier, la première erreur de gestion.
En janvier, était encore troisième. C'est six mois plus tard. On s'en fout de ça. Bon, vas-y, termine, Florian.
Voilà, merci. C'est une chronologie d'événements qui font que ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est comme quand tu fais un petit peu d'histoire et que tu partes la chronologie d'un événement, par exemple.
Pas l'archiduc François-Joseph, hein, Rabiot.
Ah, j'y allais y venir.
Eh ben non, mais c'est pas lui. Je suis désolé, c'est pas lui. C'est Chaillé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que six mois après, pour moi, l'archiduc, il a disparu.
La fin, c'est le départ de Deserbi.
Et oui, mais enfin, l'archiduc, c'est parce qu'il y a le.
Mais non, l'archiduc, François-Joseph, c'est une cause initiale. Rabiot, un mois après, plus personne n'en parlait, je te le répète.
Florian, venons-en au fait.
Il n'est pas dans la guirlande.
Vas-y, Florian.
Moi, je disais, il y a, aux 20 ans de l'after à la croisière, je disais qu'il y avait un monde dans lequel on pouvait terminer 7e. Marc me disait, mais non, ce maximum 5e. Ce monde-là, on y est. Donc, pour essayer de sauver la saison d'un cataclysme et pour passer à une catastrophe uniquement, il faut qu'on espère une qualification en conférence. Pas en conférence, en Europa League. Ça veut dire deux choses. Deux victoires de l'OM et une victoire de Lens. Et pour ça, je suis désolé de le dire, mais il faut changer de coach.
Ah, toi, tu changerais dès maintenant?
Mais non, mais c'est impossible de changer de coach aujourd'hui.
Si, bien sûr que si.
Pour se retrouver avec qui? Avec Abandonado?
Ouais, absolument. Ah oui. De toute façon, ça sera pas pire que ce que, c'est pas, sera pas pire que
ce que c'est pas pire qu'un bail, alors.
Voilà, attendez, parce que ça, c'est quand même ce que dit Florian. Effectivement, ça revient aussi sur les messages WhatsApp. Vous en dites quoi de l'éventualité
de sortir Abbey avec ce timing-là
demain maintenant.
Moi, j'en dis que les joueurs, ils sont braqués contre Mehdi Benatia et contre le club. Voilà,
quelqu'un d'autre, c'est pareil.
Mais ils n'en ont pas Abbey, les joueurs.
Si. Moi, je pense qu'il y a un truc, c'est que les joueurs, ils ont vu en Bay la cible facile. Le mec qui est en train de se faire critiquer un peu partout, et donc ils font aucun effort, et ils sont bien contents qu'il y ait Bay qui en prenne plein la gueule pour eux se défausser.
Alors là, tu ouvres une page qui est très importante.
C'est parce que c'est l'homme de Benatia aussi. C'est par rapport à son retour. Moi, je pense qu'il y a une vraie fracture entre certains dans le groupe
aujourd'hui, beaucoup des avis qu'on entend à droite à gauche, et de plus en plus, hein, et ça vaut dans tous les domaines et tous les secteurs de l'actualité en général, c'est dicté par les réseaux. Moi, je ne tomberai jamais dans ce piège-là. Je regarde ce qui se dit. Je vois d'où ça vient. Ça me passionne d'étudier ça. Évidemment, ça vient en très grande partie des supporters du PSG. Qui se venge sur Habib Bey par rapport à ce qu'il a dit sur Luis Enrique, tout ce genre de choses-là, et par les supporters de l'OM qui font des raccourcis qui sont, pardonnez-moi, stupides. Parce que quand on fait la chronologie avec Walid il y a un instant, on voit bien que ça va beaucoup plus haut, que le braquage aujourd'hui de certains joueurs, c'est par rapport au directeur sportif et pas par rapport à l'entraîneur forcément, si ce n'est le seul cas d'Abdelli, qui est un joueur finalement kidam, puisqu'il n'a quasiment pas joué. Mais toute la gestion du reste, on a fait l'historique. Moi, aujourd'hui, demain, il le vire, mais qu'il le fasse. De toute façon, qu'il soit là ou pas là, c'est pareil. À partir du moment où tu cours aussi peu, que tu joues à 8 derrière, à 2 devant, à 10 000 devant ou 2 derrière, quand tu cours aussi peu que tu as couru là et que tu fais aussi peu d'efforts, l'entraîneur, il sert à rien.
Après, dans l'échelle de responsabilité, il n'est pas tout là-haut. Je suis d'accord, Daniel, parce qu'il récupère un bourbier. Mais la réalité, Bey arrive dans ce bourbier parce qu'il y a bourbier.
Voilà, exactement.
Bah c'est ça aussi, on ne peut pas non plus le dédouaner totalement.
Je l'exonère pas de ses responsabilités.
Non, mais il a pas su emmener les joueurs avec lui. Oui, ça voilà. C'est vrai.
Mais quand on entend un ancien entraîneur qui certes a très peu compté dans le football, mais quand même, puisqu'il est même consultant chez nous, un type comme Duprat, qui en rien n'a jamais été bon, ni entraîneur ni consultant, c'est de ta faute si les joueurs ne courent pas. Bon, d'une, il a pas les infos, deux, il raconte n'importe quoi. Parce que c'est pas par rapport à l'entraîneur, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais comme il a pas les infos, il balance ineptie sur ineptie. Et comme en plus lui, il se venge par rapport au consultant que lui n'a pas été et que soi-disant il n'aime pas le gars qui donnait des leçons ou machin. Et comme tu l'as dit toi, à partir du moment où un mec parlait sur un plateau, il a plus le droit de
Duprat veut venir répondre, il est le bienvenu dans l'after.
Bah, bien sûr, il peut venir.
Mais ça, c'est indéniable qu'il y a des gens qui ont un ressenti. Après, le gros problème, c'est que même. Même ceux qui n'ont pas, encore une fois, ce problème avec Habib Bey de base, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui sont très contents qu'Habib Bey se vautre, on regarde les matchs. Moi, quand je vois même Vaïda
vous pensez que Bay il paye sa carrière de consultant?
Oui, bien évidemment.
Mais après, non, mais en gros, le donneur de leçons, c'est bien
pour lui. Bien évidemment. Pour une partie, oui. Pour une partie, oui. Il y en a beaucoup qui sont contents. Ah, c'est ça votre Bay, etc. Maintenant, la réalité, c'est que moi, je peux pas.
C'est pourquoi votre?
Mais parce que apparemment, on l'a mis en avant
sur le canal. Il était même pas là.
Non, mais bref. Parce que moi, je l'ai suivi au restaurant.
Bay, c'est un mec sympa, qu'on aime bien. Parce que moi, je pense compétent.
Parce que moi, je croyais en sa compétence. Enfin, je pense qu'il est compétent, sauf que maintenant, tu regardes des matchs.
Enfin, pour le coup, quand il a fallu le critiquer à Rennes, il a été critiqué.
Évidemment,
tout le monde.
Bien évidemment, mais je dis juste que ça cristallise, il est très très clivant de par ce qu'il faisait à l'époque, il a donné des leçons, enfin il a bien fait son boulot de consultant, et le problème c'est que les gens, en fait, aujourd'hui, les consultants, ils diront plus rien, parce que pour ceux qui veulent bosser, pour ceux qui veulent encore être dans le milieu, etc., ils diront plus rien.
De toute façon, Walid, les meilleurs consultants, et on peut en parler nous, parce qu'on pratique les consultants depuis 20 ans, les meilleurs, c'est ceux qui n'atteindraient du milieu du foot.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je veux pas aller dans le sens de Daniel, c'est que pour le coup, je suis d'accord avec lui sur le constat de départ, sauf que Habib Bey a fait des erreurs de communication sur les dernières semaines, il a fait des erreurs de composition d'équipe, même si pour toi le football ça n'a pas tant d'importance que ça dans ce...
Ah bah pas quand tu cours pas, non.
Mais là-bas, oui, c'est mais, du cours, mais quand tu regardes, moi Comboiré, j'y croyais pas au PFC. Comboiré, il a remis. Moi, j'assume tout. Il a remis à l'endroit le Paris FC. Même Nantes, je trouve que Vahid Halilhodžić, sur tous les matchs, ils sont très très mal payés. Et je pense que si Vahid avait remplacé Luis Castro, Nantes serait maintenu. Tu prends Franquès.
Ça veut dire qu'il y en aurait un autre qui serait descendu, que t'aurais dit qu'il était mauvais.
Mais non, mais
c'est. Ah, t'aurais dit que Pélissier est mauvais.
Mais non, pas du tout. Mais enfin, Pélissier. Oui. Enfin, personne.
Arrêtez avec ces.
Non, mais personne n'a changé. Personne n'a changé à Auxerre. Personne n'a changé à Auxerre. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de coach.
Termine, on en parlera après, parce que tous ces discours-là, c'est du flanc.
Il y a eu des changements de coach. En Ligue 1, il y en a eu 4-5. Le seul qui n'a rien impacté pour l'instant, c'est Habib Bey. Ça, c'est une réalité.
Mais
c'est
est-ce qu'un des entraîneurs que tu as cités qui ont impacté leur équipe aurait impacté cet OM-là, vu la situation
et vu
le
bourbier que c'est? Ça, c'est autre chose.
Mais non, c'est pas autre chose.
Mais on est obligé de juger quand même. Habib Bey, il vient à l'Olympique de Marseille.
C'est pas autre chose.
Donc, en fait, on juge rien. On juge pas.
Tu ne peux pas.
Non, c'est impossible.
Non, parce que d'abord, il faut que tu.
Je suis pas d'accord.
Tu ne peux pas te contredire comme ça, Walid.
Donc, Habib Bey, quand il arrive à l'OM, il pense pas faire mieux que ce qu'il fait là.
Si.
Bah voilà. Donc, il a l'ego de se dire que.
Mais alors, pourquoi
il vient alors? Alors
pourquoi Walid, pourquoi le caractère a été mis en avant quand ils ont battu Lyon?
Bah parce qu'il y avait que ça du match. Pour le coup,
parce que dans le jeu, il était pas.
Pourquoi d'un coup ça s'est écroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, à l'entraînement, il a fait une remarque à un mec et ça a pété. Mais vous rigolez ou quoi?
Oui,
et quand ils vont ça... et juste après, ils vont gagner à Toulouse. Enfin. Voyez bien que ça tient pas, qu'il y a un truc qui colle pas dans la guerre. Vous voyez bien que les joueurs, s'ils en ont après quelqu'un, c'est après l'institution.
Oui, non, mais ça, on l'a dit. Mais ça, on l'a dit.
Et bah alors, donc, tu peux me parler de tout ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème.
Oui, mais à ce moment-là, à Rennes, moi, j'ai dit que c'était l'agent, c'était Arnaud Pouilla.
Alors, t'as dit la vérité.
Oui, j'ai dit la vérité. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un moment.
Mais
pas du tout, j'en ai rien à cirer des réseaux, moi. Mais j'en ai rien à cirer. Mais je dis ce que je pense. Moi, aujourd'hui.
Il faut pas avoir peur des merdes qu'il y a sur les réseaux.
Mais tu penses vraiment que j'ai quelque chose à faire des réseaux? Je dis juste que moi, quand je vois les matchs d'Habib Bey, quand il met à mettre Traoré à droite, quand il fait des compositions d'équipe où Aubameyang il est surutilisé alors qu'il doit pas jouer tous les matchs, on a quand même le droit de dire que si Greenwood il lui chie dans les bottes, bah Greenwood il démarre sur le banc.
Greenwood...
Voilà, bah alors, c'est tout. Comboiré, il est arrivé au PFC, il a mis Maxime Lopez hors du groupe, il a mis Kebal sur le banc.
Dis-moi ça. Moi, je vais te dire, je ne comprends pas.
Bah, ça fait partie du management qu'il a pas fait.
Je suis d'accord là-dessus.
C'est tout.
Mais les raisons. Je ne comprends pas, sachant que son directeur sportif est en conflit avec Greenwood, que finalement il cède à la facilité de dire ok, c'est quand même peut-être dans le marasme le seul gars qui est capable
exactement.
De faire un truc alors qu'il ne fait rien.
Et attends, j'ajoute juste
donc c'est hypocrite.
J'ajoute juste un truc. Quand est-ce qu'il est né vraiment entraîneur à Rennes? C'est quand il a mis ses cadres-là sur
exactement.
Le banc.
Exactement.
Ce que je pensais qu'il ferait un moment à Marseille beaucoup plus tôt.
Là, on arrive
pour justement sauver la saison.
Mais sauf que, comme il savait que, enfin, il pensait que Greenwood était son assurance vie, qu'allait lui faire gagner les matchs, d'accord? Et que son but à Habib Bey, c'était quand même de durer à l'Olympique de Marseille l'an prochain, et il l'a dit notamment dans sa communication. Et pour moi, tu vois, au début, je valorisais énormément sa com sur les deux, trois premières semaines, dans son contexte marseillais, tout ce qu'il réalisait, dès qu'il a commencé à parler des points, dès qu'il a commencé à parler du classement. Dès qu'il a commencé à dire non mais avant que je sois là, ça pressait moins, ça défendait moins, etc. Il s'est tué. Dès qu'il y a eu l'histoire du salaire, ou en disant moi l'année prochaine je vais venir, je serai là, que je mérite mon salaire. Dès qu'il a commencé en fait à faire tous les avis de l'after de la veille en conférence de presse, il s'est tué tout seul. Et c'est ça vrai. C'est une réalité.
Comme deux heures,
alors
il s'est
tué de la même façon. Alors que moi je pensais, alors que moi, parce que tu parlais des réseaux,
ça,
c'est à eux d'arrêter de regarder les réseaux. C'est à eux d'arrêter de regarder ou d'écouter ce qui se dit dans l'after foot.
Je t'ai dit,
ça on est d'accord.
Je t'ai dit que l'époque d'arrêter l'after foot.
Enfin en tout cas, ils doivent être dans une bulle.
Et surtout, Bey doit être celui qui sent le mec qui va lui eu chier dans les bottes, etc.
Là, ce qui n'a pas senti. Ça m'intéresse, mais pas ce qui était avant.
Mais là où on est,
c'est la même chose.
C'est fini.
Non, c'est pas la même chose.
Mais là où on est, c'est la même chose.
Beaucoup plus précis. Là, oui. Et quand je te dis.
Excuse-moi.
Ben oui, parce que quand je te dis, Walid. Oui, la précision. Parce que quand je te dis qu'aujourd'hui, l'important dans le football, c'est pas le 4-3-3 ou le 5-4-1. Mais c'est ce qui se passe en dehors, et notamment les conférences de presse.
Mais ça en fait partie aussi du jeu. Des choix.
C'est le principal.
Moi, je vais te dire.
Aujourd'hui, c'est le principal. Tu détectes tout.
Quand moi, j'ai dit ici, il y a deux semaines, je me suis fait assassiner que cette équipe-là, les meilleurs sans Greenwood, et que la première heure de jeu contre Nice. Maintenant, sur les réseaux, et j'en ai rien à faire des réseaux.
Moi, je t'ai dit, à partir du moment où.
On n'était pas d'accord.
Mais si j'avais un problème des réseaux, alors que tous les fans de vous marseillais te disent que Greenwood, c'est le meilleur joueur du monde, bah, j'aurais jamais dit ça, moi. J'aurais jamais dit ça. Et le match contre Monaco, c'est le meilleur match d'Abi Bey dans le contenu. Contre Nice, sur la première heure de jeu, c'est là où il y a le meilleur état d'esprit. Donc voilà. Et Bey, il a tranché.
La preuve que tout ça est très variable, et que donc ça ne peut pas être l'entraîneur seul, puisque tu repères à l'intérieur de sa période des moments assez étonnants de bien.
Mais il était blessé.
Renversement en Angleterre, peut-être à tournoi du championnat. Everton a marqué deux buts coup sur coup. Everton mène 2-1 face à.
On fait un débat de 10 minutes et il y a
face à Manchester City, notamment un but ridicule de la défense de City.
Il reste
City,
un quart d'heure.
Donné. Et oui, apparemment, ça va pas du tout entre eux. Hein, City, Donnarumma est à genoux devant l'arbitre. Quant à Pep Guardiola, barbu, il ressemble de plus en plus à Eric Schell. Je sais pas si c'est bon signe. En tout cas, 2-1 pour Everton face à City.
Eric Schell, rien à voir avec Eric Schell.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais que t'es un fan d'Eric Schell.
Mais non, il n'y a rien à voir avec Eric
Schell. Bah,
c'est pas une barbe blanche.
Enfin, c'est un chauve barbu, quoi.
C'est Walid dans 10 ans.
Et 1-0 pour Séville. Également face à la Real Sociedad, un but d'Alexis Sanchez, toujours joueur de foot. Donc Séville qui mène à 0. A tout de suite dans l'after avec la Ligue 1 folle de cette fin d'année. Est-ce que c'est une des Ligue 1 les plus dingues qu'on ait connues? Appelez-nous, 32-16 pour débattre.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h36, Jean-Louis Tour est là, Walid Lacherchour est là, Daniel Riolo est là. Les gars, je vous refais un petit point sur les matchs en cours, parce qu'il peut se passer des choses importantes ce soir. On aura peut-être Julien Laurence tout à l'heure, les gars, parce qu'Everton à un quart d'heure de la fin mène 2-1 face à Manchester City. Ça pourrait être un tournant décisif pour la fin du championnat. 1-0 pour Séville pendant ce temps-là face à la Real Sociedad des restes d'un minute. Et puis en Italie, à quelques secondes de la fin, la Roma mène 4-0 face à la Fiorentina. Et au Portugal, le Sporting mène 3-0 face à Guimarães à une demi-heure de la fin. Voilà pour les scores en cours. On est sur des fins de championnat un peu de partout, donc il y a du suspense dans tous les sens. Dès qu'un but est marqué, je vous avise. La Ligue 1 est folle. Marseille ne répond plus. Lyon, qu'on croyait mort, revit. Lens est toujours là. Bref, Daniel, du haut de ses 20 ans d'expérience d'after foot, n'a jamais vu une année aussi folle. Jingle Rilo.
Ouais, je surveille toujours, Walid.
Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé parler de
Walid, c'est mon pot de lait.
Mon pot de lait, ça veut dire quoi ça?
Bah, c'est le lait sur le feu, je te sors.
Ah d'accord.
Bon, je suis désolé, ça va être un peu long.
Ah ouais.
Et parce que là,
parce que d'habitude,
parce que déjà la vie, je le trouve pas excitant sur l'intitulé. Alors si c'est très très long, là, je me disais que ça allait pas être.
Parce que j'ai peur que vous passiez à côté de choses très importantes.
Ah, essayez quand même de synthétiser.
Tu seras précis, j'espère, comme nous juste avant la pub.
Mais tu l'as été.
Ouais.
Je t'ai encouragé à l'être et tu l'as été. Hier soir, t'as dit Walid en parlant de l'excellent match de l'OL. Ouais. Vraiment super match de l'OL, bien mieux que les précédent d'il y a à peu près 2 mois, où on les taillait parce qu'il n'y avait plus rien, plus personne n'avançait, Fonseca était à la ramasse, ils ne géraient pas la pression, ils ne savaient plus où ils étaient, ils subissaient la pression d'en haut, ils étaient tous perdus. Donc hier, tu as dit, le grand homme de l'OM cette année, c'est Fonseca. Et moi, je te réponds non.
C'est Jean-Louis qui l'a dit.
Ouais, mais c'est pas grave. Tu es d'accord avec moi, quoi.
Oui, globalement, voilà.
Ah,
oui.
Bon. Vous l'avez dit ensemble,
ensemble.
On ne l'avait pas, c'est pas très grave.
On n'aurait pas de soucis.
Dans le raisonnement, ce ne sera pas grave. Ouais. Parce qu'effectivement, comme je te le disais, il y a 2 mois encore, quand ils étaient dans leur traversée du désert, là, on disait tout le contraire. Et moi, je pense que notre métier, ce n'est pas d'être des fonctionnaires de la petite analyse footballistique. Et on doit comprendre, parce qu'on a toujours été en avance dans l'after, que le foot, il est en pleine révolution. Et que ce qui s'est passé cette année en Ligue 1, quand j'ai dit dans l'intitulé, c'est la Ligue 1 la plus folle, machin, c'est en fait folle au sens premier du terme. Ce n'est pas en termes de suspense ou quoi. On en a eu d'autres, des Ligue 1 qui nous ont transportés dans le suspense.
C'est la plus surprenante, c'est la plus surprenante, quoi, ce que tu veux dire.
Exactement, mais surprenante dans le sens où on n'est plus capable aujourd'hui d'analyser convenablement ce qui se passe sur le terrain.
C'est ça le vrai souci, parce que je vais vous refaire la liste très très vite, parce que comme je l'ai déjà faite il y a deux semaines, je ne vais pas la refaire parce que je vais même élargir un petit peu. Donc je ne vais pas redire à quel point on a varié, on a vraiment varié sur, on vient d'en parler beaucoup, De Zerbi, l'OM, Fonseca, l'OL, Monaco, malade, Guéry, malade, Pocognoli, ça a servi à rien. Et puis quand on fait le bilan un peu plus précis de la deuxième partie de saison, quand il arrive, c'est peut-être un petit peu mieux que ce qu'on pense. Genesio lâché par les joueurs, et puis finalement qui est encore en course pour la Ligue des Champions, Strasbourg qui choisit les matchs et les compétitions. Gary O'Neill l'a dit, il y a très peu de coachs qui ont osé avouer. Oui. On choisit une compétition. Il l'a dit. Ça, c'est complètement nouveau. On peut continuer avec Francaise, chassé à coups de pompe et qui maintenant est en réussite à Rennes. Je vais aller plus loin. On sort de France, l'écroulement de Liverpool. Avec ce qui s'est passé, leur recrutement à 500 millions, ce qui se passe sur le terrain. Arsenal et Arteta, on change la façon de jouer parce qu'on n'y arrive pas, parce que physiquement, on ne suit pas. Crise au Barça, il y a eu. Vous l'avez peut-être oublié, mais il y a eu cette année. Au Real, on est en plein dedans. Alors là, on atteint des sommets. La fameuse institution Real, fantastique. City qui va. Peut-être, je sais pas, parce qu'ils sont en train de perdre là, mais bon,
on est en train de redire qu'ils
étaient encore en course pour le titre, alors que Pep Guardiola devait être viré, était en dépression, s'arrachait les cheveux qu'il n'a plus. C'était terrible. Donc, je pense qu'on est quand même sur une année assez particulière. Et ce que je répète souvent, c'est que non seulement le foot change, et les joueurs surtout qui ne sont plus du tout concernés comme avant. Par ce qui se passe sur le terrain. Exactement comme quand on n'arrête pas de disserter sur le fait que les jeunes ne regardent plus les matchs en entier, ben eux, ils les jouent plus en entier. Et ils jouent même plus les compétitions en entier, les joueurs. Ils choisissent. Alors, on a un club qui a un peu anticipé tout ça et qui a créé un monde nouveau, c'est ce que je dis souvent, c'est le PSG. Est-ce que le PSG, c'était bien en Ligue 1 cette année ?
Non.
5 défaites, c'était pas bien.
Non.
Pour les raisons qu'on sait.
Oui.
Première partie d'année. On
c'était le laboratoire.
Vous savez combien, au final, maintenant, là, à ce jour, ils vont avoir joué de matchs en Ligue des Champions ? 16. Mmh. En fait, ils font un championnat parallèle. Si tu vas loin en Ligue des Champions, tu fais un championnat parallèle. Quand tu parles même aux gens du club, ils te disent, mais en fait.
But de City, 3-2.
Ah ouais, c'est peut-être pas fini.
Tu vas peut-être revoir ton avis.
Non, bah ça changera rien du tout.
C'est un match aussi City. Fou que la saison de Ligue 1.
En fait, ils font un championnat parallèle et ils l'ont parfaitement compris. En gros, la Ligue 1, on a tout fait pour l'affaiblir. On concentre tout sur la Ligue des Champions. Et Arteta a parlé de ça. Quand il a dit, c'est impossible en fait de faire les deux. On a dû changer notre façon de jouer, même si j'avais un groupe élargi entre les blessés, l'intensité qui est requise pour être champion en Angleterre et être bon en Ligue des Champions, reproduire les mêmes prestations, c'est pas possible. Surtout avec la nouvelle formule. Alors qu'il y a quelques années, on disait le championnat fort aide l'équipe. À être bonne.
Le PSG pourrait pas y arriver parce qu'ils ont pas le rythme dans leur championnat.
En fait, maintenant tu peux plus parce que l'intensité qu'il y a dans le football d'aujourd'hui fait que tu peux plus être bon deux fois par semaine. On revient à la France. Lens, parcours incroyable, pas de Coupe d'Europe. L'OM, qu'est-ce qui les a fait exploser ? La Coupe d'Europe. Et moi, je me souviens quand on a reproché à Benatia de laisser entendre que finalement il fallait s'en foutre de la Ligue des Champions parce qu'elle n'apporterait rien et qu'elle n'apporterait que des problèmes. C'est à cause de la Ligue des Champions qu'ils ont explosé et de l'impact que ça a eu de perdre à Bruges, mais pas l'impact de perdre seulement à Bruges par rapport à l'identité, à l'idée qu'on se fait de l'OM, de l'institution OM, de ce qu'ils doivent faire
par rapport à l'image aussi sur le terrain,
exactement,
les 3-0.
Exactement.
Et le but de Trubin.
L'image qu'on se fait de l'OM qui n'a pas le droit de faire ça. Alors que si c'est un autre club, d'un coup ça va passer un petit peu mieux. Ça, c'est ingérable aujourd'hui. On a eu l'OL. La période noire, dès qu'ils sont sortis de la Coupe d'Europe, alors qu'on s'y attendait pas, on s'est dit c'est le Tavigo machin, ils ont récupéré des joueurs et là ça va mieux. Pareil pour Lille, quand ils sont sortis de la Coupe d'Europe, ça s'est arrangé. Le foot aujourd'hui, physique, intensité, les choses, j'arrête pas de dire qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Cellules performance, les cellules médicales, c'est maintenant là que ça se joue. Et le management, c'est Luis Enrique partait 3 jours en vacances, mais jamais personne n'avait fait ça. Il a inventé un management totalement nouveau, pendant que l'OM se plante à faire tout l'inverse en réquisitionnant les mecs pendant une semaine et à les enfermer.
Bon, la différence, c'est que le PSG, il gagne et l'OM, non. Ouais.
Mais peut-être aussi que cette méthode de management, elle fonctionne. Mais
Parce qu'en fait, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où le but passe derrière la ligne.
Gérer l'envie des joueurs et leur façon de voir le foot et de jouer les compétitions, c'est ce qui existe depuis des années en NBA. C'est ce qui existe dans la carrière d'un joueur de tennis aujourd'hui. C'est l'événement, comment on te concerne, comment on te manage, comment on
tire. Les joueurs d'avant étaient concernés tout le temps, Daniel ? Ils faisaient des saisons tout le temps à bloc, ils démarraient pas en janvier, en février. Toi, au début de l'after, il n'y avait pas des joueurs play-off, il n'y avait pas des joueurs deuxième partie de saison.
Bien sûr que si, mais c'est beaucoup plus marqué aujourd'hui. Parce que le foot, la dimension physique, elle a vraiment augmenté. Et puis, on avait le concept de l'institution, on en a parlé dans cet épargne dans l'after, qui en gros n'existe plus du tout aujourd'hui. T'en as plus une qui tient la route, ou très peu.
Alors,
deux, trois exemples, parce que les résultats sont en phase en ce moment, mais
à peine ça vacille et ça s'écroule. J'oublie pas quand même, parce que tous ceux qui vont me sortir l'exemple du PSG, l'institution parfaite et tout. Dans la campagne.
Ah, t'as même les contre-arguments dans la vie.
Dans la campagne 2024-2025, n'oubliez jamais que le PSG s'en sort grâce à un pénalty à la 97e contre Newcastle. L'année d'après, même époque, le PSG, l'année où ils vont être champions d'Europe et où ils vont rouler sur le monde entier et qu'on va les valoriser et féliciter. En décembre, il y a des avis. Nassel Relaifi ici dans l'after, des gens qui disent si on ne sort pas de la poule, c'est pas si grave.
Au club aussi, on disait ça.
Au campus.
Exactement.
Mais on n'était pas d'accord avec ça, non ?
Bon, alors, voilà,
ça se disait.
J'ai l'impression que tu dis deux trucs et je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux. Je suis d'accord avec une partie, pas avec l'autre. Je suis d'accord sur l'évolution du foot, bien sûr, tout pour le physique, tout ce que tu as décrit,
etc. C'est ça qu'il faut
etc.
analyser aujourd'hui.
Attends, laisse-moi. Donc, notamment aussi sur le turnover. T'as l'Atlético aussi. Ça fait 2 mois qu'ils ne jouent plus en championnat, qu'ils font tourner à chaque fois et qu'ils pensent que à la Coupe d'Europe. C'est comme ça qu'ils ont été compétitifs contre Arsenal. On en a parlé aussi à 20h. Mais là où je te suis pas, c'est le lien avec tout est fou, la Ligue 1 est la plus folle que toujours. J'ai l'impression.
Pas folle dans l'analyse.
Pourquoi ? Moi, je j'ai pas l'impression que la Ligue 1 soit plus folle, c'est la façon dont on l'aperçoit. Tu parles des réseaux sociaux, je pense qu'il y a une hystérisation un peu globale de l'analyse foot qui fait que sur chaque club, on va se dire il y a un moment où ça a été catastrophique. Il y a quelques années, je pense qu'on aurait un peu plus toléré une série un peu plus difficile comme et que ça n'aurait pas pris terrible. De telles proportions. Et je pense qu'il y a aussi l'évolution globale de la société qui fait ça.
Ouais, je suis d'accord avec ça, tu complètes ce que je dis.
Oui, mais parce que je trouve que il y a plein de choses que tu dis qui existaient aussi il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, il y avait des gens aussi qui te disaient que tu pouvais pas jouer en championnat et en Coupe d'Europe. C'était exactement les mêmes discours. Pourquoi, à l'époque, ils avaient tort et aujourd'hui, ils auraient raison?
Il y avait moins de matchs.
Ah oui, mais bon.
Encore une fois, je te le redis.
Roland, il t'aurait expliqué exactement la même chose.
Le PSG va jouer à Munich, c'est quoi, 19e? 17e? 16e match. C'est un championnat, c'est une moitié de championnat,
l'évolution du foot.
Ça n'existait pas avant.
Mais c'est pas pour ça
tu
que
faisais des matchs de poule et tu pouvais en gérer quelques-uns.
Mais donc ce que dit Jean-Louis sur les personnes qui ne pouvaient pas, enfin qui disaient que les clubs français ne pouvaient pas jouer 2 fois par semaine, avaient encore plus de tort qu'actuellement. C'est-à-dire que à l'époque il y avait moins de matchs et il y avait plein de clubs qui pouvaient pas jouer.
Champions avec 2 phases d'ailleurs où il y avait beaucoup de matchs aussi à ce moment-là.
Enfin, ça a pas duré longtemps. C'était 2000-2001.
Ouais, mais moi je me rappelle de l'after début d'after Francis Gillot Bordeaux, on pouvait pas jouer les deux matchs, etc. Alors qu'à ce moment-là on jouait moins.
Vous pouvez dire ça aussi.
Ouais.
Parce qu'en fait à l'époque jouer la Coupe d'Europe ça coûtait des sous.
Aujourd'hui ça en rapporte. Aujourd'hui
c'est gros. Parce qu'à l'époque c'était facile de dire ça.
Parce qu'il y a ça aussi dans l'inversion dans le raisonnement.
Ah oui.
Ça je ne l'ai pas cité. Pardon. Mais effectivement, il y avait ce raisonnement-là. Aujourd'hui,
c'est
pour ça qu'ils ne veulent pas partager l'argent des Coupes d'Europe et des droits internationaux et qu'ils veulent les réserver aux clubs européens. Parce qu'il n'y a que là que l'argent rentre. Avant, les droits Ligue 1 étaient très importants. Pour ça, ils préféraient délaisser l'Europa League ou les petites Coupes d'Europe qui ne rapportaient pas assez d'oseille. La Ligue des Champions, juste y participer. Parce que de toute façon, ils avaient l'oseille de la Ligue 1. Aujourd'hui, il n'y a plus l'oseille là. Donc maintenant, ils se tapent une bourre pas possible pour aller en Coupe d'Europe quand ils y sont. On se rend compte qu'il faut
aller trop loin. Strasbourg, le chemin le plus facile pour aller en Coupe d'Europe l'an prochain, c'était quoi ? Le championnat ou c'était la coupe.
Ils ont merdé.
Tu penses que c'était les coups par rapport
parce que ça fait deux mois
que tu joues demi-finale. Il y a match pour moi.
Parce que la 7e place, elle était largement portée. Et puis ça fait 2 mois pas lâché les 3-4 dernières
journées. Le championnat, Strasbourg peut s'offrir une finale contre Monaco.
Moi je te dis pas quel était le meilleur chemin.
Alors ça fait 2 mois qu'ils sont passés à autre chose.
Mais moi je te dis pas quel était le meilleur chemin. Je te dis que clairement pour la première fois, on a un coach qui assume avoir fait.
Oui, non, mais je te parle de
c'est fou.
Sur le côté, la priorité.
On continue le débat dans quelques instants. Juste après une courte pause, Walid t'aura la parole et le 32-16 est ouvert si vous voulez participer. Bien sûr, donnez votre avis. Tiens, on a Cédric qui est là qui aura la parole dans quelques secondes. Ah, tout de suite, ça n'est pas évolué. Toujours 3-2 pour Everton face à City. On va rentrer dans le temps additionnel.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h49, Daniel Riolo, Walid Acherchour et Jean-Louis Tour sont là. On continue le débat autour de l'état global, des changements majeurs dans le foot, parce que c'est un peu ça finalement là que nous a listé Daniel et qui nous fait réagir. Walid, t'as la parole et ensuite ce sera Cédric.
Moi là où je suis d'accord avec Daniel, parce que c'était quand même un avis buffet à volonté, il a voulu vider son sac un petit peu Daniel sur le football actuel, mais il y a du bon bien évidemment. Moi c'est surtout sur le côté traitement de l'analyse. où tu parlais de la NBA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous qui parlons de football tous les jours ou tous les deux jours, ça devient de plus en plus dur parce qu'on nous reproche d'être dans la culture de l'instant. Moi, je dis souvent que je suis la météo du foot, en fait. Quand il fait beau, bah, t'es obligé de dire qu'il fait beau. Quand il fait moins beau, il fait moins beau pour un joueur, pour un coach. Mais en fait, dans une saison, il y a tellement.
Comment veux-tu ne pas être dans la culture?
Et nous, on s'adapte à la consommation du foot aujourd'hui où pendant un mois, Lille peut ne pas gagner une rencontre avec un Haraldsson qui est catastrophique, qui met pas un pied devant l'autre, et faire un match comme il a fait hier ou depuis
et
un
je
mois.
Je rappelle que Genesio l'avait mis dans la sacrée.
Ou depuis un mois, c'est totalement différent. C'est son cousin, donc c'est vrai que sur le traitement. Et moi, souvent, je me posais la question comment faisaient les spécialistes NBA avec des matchs à 80 matchs la saison, avec des dynamiques, il y a des équipes qui perdent 4 matchs et derrière.
Parce que c'était beaucoup plus clair. Leur idée, elle était claire. On te vendait pas le truc de la saison régulière et des playoffs. C'est comme deux saisons. Nous, finalement, dans le foot, ça fait un petit moment que je pense qu'on se ment beaucoup. Quand on se raconte les matchs, quand on s'extasie sur des matchs qui sont finalement pas si importants que ça, quand on le faisait sur des matchs de phase de poule qui avaient peu de signification.
Après, ça existait quand même beaucoup, mais on l'a quand même beaucoup dit,
mais c'est pas vraiment entendu. On continue de beaucoup en faire sur des matchs de phase de poule, sur des matchs de début de saison. Mais parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire de l'actu? Déjà que il y a un vrai désintérêt pour le foot. Il faut être clair là-dessus. Mais.
Et parce que moi, pour moi, toutes les phases de l'année de football m'intéressent. Et moi, je trouve qu'il y a un storytelling d'Embélé l'année dernière entre les 6 premiers mois et les 6 derniers. Je trouve qu'on raconte une histoire où, si on l'a critiqué les 3 premiers mois, c'est pas très grave parce que je pense qu'il était.
Sauf que comment tu te fais cracher la gueule?
Oui, mais ça, après ça.
Quand tu expliques qu'on
veut. Je crois que t'en avais rien à faire des réseaux, Daniel.
D'accord, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on entende.
Oui.
Qu'on entende ce qui s'est passé avec Dembélé.
Oui, mais oui.
On entend.
Oui,
bien sûr. Clairement, et que ceux qui aient des infos soient entendus. Dans l'équipe, ça a été raconté. Fabrice Hawkins, ça a été raconté. Les gens dans cette rédac, on avait les infos sur ce qui s'est passé au PSG jusqu'en novembre-décembre, sur ce qui s'est passé même dans les joueurs qui sont allés voir Lucien Riquet.
Tu parles du changement du joueur ou de ce qui se passe dans le vestiaire, Dembélé,
ça a été important.
Oui.
Ça a été important. Et le voir aujourd'hui et entendre, ah ouais, mais vous êtes dans la culture de l'instant, vous n'avez pas su anticiper, machin. Non.
Non, il y a des choses qui sont
Il y a des choses qu'on a décrites.
Après, sur Lucien Riquet, tu aurais pu anticiper certaines choses ou faire des mea culpa à l'époque, ça c'est autre chose.
Mais ce qui s'est passé, exactement ce que j'ai dit.
Non, pas du tout. Mais ça, c'est pas grave.
Mais je prends tout le temps que tu veux pour t'expliquer.
Non, mais on n'a pas le temps et puis on va encore s'embourber dans un débat. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, tu verras la réalité. Mais c'est sûr, c'est ta réalité.
Tu vas voir la compo qui va mettre demain.
Oui, enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais en plus, c'est un débat, c'est mon avis.
Justement.
Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est que faut pas non plus être dans l'effet inverse où moi je pense qu'il y a des choses qui existent actuellement dans ce que dit Daniel, qui existaient il y a 5 ans, il y a 10 ans. Le joueur qui, moi je me rappelle, j'ai suivi les années du Real Madrid en 2017, 2018, Sergio Ramos, les 2-3 premiers mois, il revenait de vacances, il revenait de la Coupe du Monde, c'était pas le même. Et dès qu'il se mettait en mode 8e de finale de Ligue des Champions, le mec c'était un martien. C'était Toni Kroos, la même chose. Moi je l'ai vu déjà faire des matchs en octobre. Tu vois, ces choses-là ont déjà existé dans un football qu'on aimait beaucoup plus peut-être qu'aujourd'hui, où on va peut-être caricaturer en disant, bah c'est un peu ce que Fred Hermel avait dit là la semaine dernière, le football TikTok. On est aussi un peu dans la caricature de la critique du football d'aujourd'hui. Les jeunes joueurs, ça existe.
Alors, si tu as compris que c'était une critique, t'as pas compris mon avis.
Non, pas du tout.
Mon avis, c'était justement de ne pas se tromper sur l'analyse.
Le désintérêt.
Et de bien continuer à bien expliquer tout ça.
C'est pour ça que je suis globalement d'accord avec toi, mais le désintérêt des joueurs, bien évidemment qu'il existe. Les joueurs sont moins passionnés qu'avant, mais il y a eu aussi, par ailleurs, précédemment, des similitudes sur des coachs, sur des clubs, sur des joueurs qui ressemblent à ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est juste ça.
Cédric, bonsoir.
Bonsoir, Lester. Bonsoir, tout le monde.
Cédric, tu es supporter de l'OL, je le précise au passage.
Exactement.
Donc, quand tu entends le débat de l'after, là, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu te positionnes?
Non, mais moi, je me positionne sur le fait que la Ligue 1, moi, je rejoins Daniel sur. Le fait que la Ligue 1 a jamais été aussi attractive cette année, hein, quand on voit l'OL par exemple.
Je suis pas d'accord, Lyonnais, par contre.
Mais l'OL.
Bah pour moi, la saison 2017 avec Favre, Jardim, Emery et Genesio.
Elle est folle en fait. Elle est folle cette année parce que Paris n'a jamais. Je veux dire, ça faisait longtemps que Paris n'avait pas été champion de France aussi tardivement, parce qu'ils le sont quoi qu'il arrive.
Toi, tu parles d'attractivité. Daniel, il parle de saison folle, difficile à analyser.
Mais difficile à analyser. Mais pourquoi? Parce que Lyon, il y a un an, administrativement, passait en Ligue 2. Aujourd'hui, ils sont à deux doigts d'être en Ligue 2. enfin, je sais pas si on se rend compte, le travail de Fonseca est quand même assez hors norme dans cette équipe, parce qu'on parle des joueurs, mais le chef d'orchestre, il est quand même sur le banc de touche.
Mais il y a pas, alors encore une fois, il y a le travail de Fonseca, le travail de le sérieux qui est revenu au club avec Garlinger, Mathieu Louis-Jean, le recrutement qu'il est allé chercher avec le peu de moyens qu'il avait.
Kang.
Il y a Michel Kang, il y a un vrai travail, il y a eu un travail collectif dans
pour le coup Lyon, c'était lisible, même dans la période où ça gagnait pas, il y avait quand même beaucoup d'absents, on sentait qu'il y avait toujours quand même une idée de jeu.
Non, il y avait l'idée que Fonseca, la pression, c'était compliqué,
oui.
Parce qu'à Lille, ça avait été dur, parce qu'à Milan, ça avait été dur.
Mais justement, t'arrives à analyser Lyon, toi?
Et puis non, Lyon, il y avait autre chose. Lyon, rappelez-vous, tous ceux qui voyaient les matchs gagnés, mais beaucoup dans les supporters lyonnais qui disaient, il y a des victoires. Oh, égalisation de City.
Égalisation de City à la 96e. Et c'est Donnarumma qui a failli le. Parce que Donnarumma était dans la surface et il s'est relevé au dernier moment.
Il te met un doublé droit extraordinaire.
Exceptionnel.
Il va falloir faire les comptes au classement. Ouais, bon, ils prennent un point. Quoi. Ouais, voilà.
Il limite la carte.
Excuse-nous, Cédric. Hein, mais si tout le monde gagne,
Arsenal gardera deux points d'avance. Pardon. C'était bon.
Vas-y, Cédric.
Mais il y a plein de choses. En fait, même les Marseillais, enfin, ça a joué longtemps, apparemment, le titre avec Paris. Au final, aujourd'hui, ils sont 7e. Enfin, c'est un championnat fou.
Mais Cédric, ce qui est fou, surtout avec Lyon, c'est qu'ils font 0-0 contre Angers avec aucun tir cadré. Et derrière, deux semaines après, ils battent le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. En fait, comment tu veux analyser le football de cette manière?
J'ai écouté Fonseca hier après le match et ce qu'il dit, c'est quand même, il a raison dans tout ce qu'il dit. Je trouve que même comme un Coco Tolisso, ce qu'il fait sur la saison, on va pas parler de l'équipe de France parce que c'est bon, c'est rayé, c'est fini, on n'en parlera plus. Mais en tout cas, la saison qu'il fait, c'est incroyable parce que mine de rien, quand un an ton club est administrativement en Ligue 2, que le coach, que tout le monde, on a pris des joueurs à 2 millions d'euros, des joueurs comme Morera qu'on connaissait même pas, il a pris la place à Fofana. Fofana, s'il est jamais blessé, peut-être que ce joueur-là ne joue même pas. Aujourd'hui, il fait incroyable. Les Morton, même Yarenchou, il est arrivé, il a fait deux matchs catastrophiques, on le prenait pour un pantin. Là, il marque deux fois en deux matchs et on dit qu'il est un peu meilleur. Enfin, Lyon, ce qu'ils font, c'est incroyable. Je suis pas talonné, je ne sais pas. Mais c'est
Cédric, tu as raison, on en a parlé longuement hier soir. C'est un peu en décalage par rapport au débat qu'on avait, mais enfin voilà, t'as rendu hommage à l'OL qui, dans sa mesure. A été complètement fou cette année.
Dans la saison complètement folle, il y a aussi un point, c'est Nice qui est aujourd'hui 15e, qui a peut-être gagné la Coupe de France et qui a fait une saison cataclysmique. Voilà, dans les trucs un peu what the fuck. Qui jouait Lens en
WhatsApp, on me dit Eli Wahi peut priver l'OM de Coupe d'Europe.
Oui, non, mais il y a des trucs, il y a des trucs assez étonnants.
Par exemple,
le côté fou que Daniel évoquait.
C'est fini, 3-3 entre Arsenal et City. 5 points d'écart, donc Arsenal reprend la main et a son destin entre les mains. On va du coup passer un petit coup de fil à Julien Laurence qui va nous raconter ce qui s'est passé ce soir en Angleterre dans quelques secondes avant de parler de Coupe d'Europe et d'un avis de Walid intéressant qui va nous dire ce que doit faire Luis Enrique après-demain.
Oh, attention, ce que doit faire, attention.
Ce que tu aimerais qu'il fasse.
C'est un peu prémentieux. Non, que doit devenir Luis Enrique.
Non,
c'est encore mieux.
Attention, j'ai des prérogatives pour demain, mais par contre.
C'est après-demain.
Je me permettrai pas. Parce que si je reprends un club dans deux ans et qu'on me le remet à la sauce à Bibay, j'ai pas envie d'avoir de problème quand même.
Écoute,
sur les réseaux sociaux, Daniel, moi j'ai très peur des réseaux.
Walid, il n'y a pas trop de risques que tu reprennes un club.
Attention, j'ai le Saint-Denis Union Club qui est sur moi.
Écoute, Walid, tu devrais oser, puisque je n'ai aucun mal à dire que ça a marché quand il a fait ce que je demandais.
D'accord.
Tu devrais dire la même chose.
Ok.
Allez, à tout de suite.
Il vit dans un monde parallèle.
On revient dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h01, l'after est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Walid Acherchour, avec Jean-Louis Tour. Je parlais Coupe du Monde tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur l'appli RMC des podcasts extraordinaires qui présentent toutes les sélections de la Coupe du Monde. Si vous voulez tout savoir sur la Suisse, l'Iran, la République démocratique du Congo, l'Australie, la Corée du Sud, tout ça est en ligne, en plus des podcasts After Paris, Lyon, Marseille, Portugal, non, on n'a pas encore le Portugal, mais Espagne, Angleterre, Italie.
Là, on a tous les pays en ligne pour la Coupe du Monde.
Et je crois qu'ils ne sont pas encore tous en ligne, on les distille. le Ghana, par exemple, est bientôt en ligne.
Faut que je bosse mon Afrique du Sud pour le match d'ouverture.
Voilà. Ah
oui. Oui. Donc, j'écouterai le podcast.
C'est quoi le match d'ouverture déjà? Je suis pas
Mexique,
dedans. Là.
Mexique-Afrique du Sud.
Okay.
Ah, faut que tu t'y mettes.
Ah oui, là, bah, attends.
T'es pas Gilbert qui se réveille en pensant à la Coupe du Monde tous les jours.
Moi, tu sais, j'aime bien.
Tu sais que ça peut être.
Jusqu'au bout.
Ça peut être une surprise, hein. L'Afrique du Sud, c'est une bonne équipe.
Ouais, c'est une bonne équipe.
Ouais.
Après, avoir vraiment les conditions de la Coupe du Monde.
T'as pas dit ça sur toute la CAN et.
Il y a déjà eu un Mexique-Afrique du Sud en ouverture, t'es au courant?
Ah bon?
En 2010.
En 2010.
Voilà. Groupe de la France.
C'est un Mexique-Afrique du Sud le premier match.
Oui, groupe de la France.
Purée, c'est vrai, avec Chabalala.
Voilà, Chabalala. Qui n'était pas un but au handball, pour les connaisseurs. De quoi je voulais parler là? Je sais plus du coup.
De Julien Laurence.
Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
T'étais dans les drôles de l'âme tout à l'heure avec Jean-Louis. Il était bon, Jean-Louis?
Est-ce que, est-ce est très bon, pas très bon. Chose.
On va le garder, ouais, je pense.
Bon.
Merci.
Non, c'est Nico le titulaire.
Ah, ouais, Nico,
Nico, bien sûr. Il y a une gestion de groupe à assurer.
C'est pas
faux, quoi. Est-ce que ce soir, on a assisté à ce qui sera l'épilogue du titre en Première Ligue avec le 3-3 entre Everton et City?
Ah, peut-être, effectivement. Peut-être que ce match nul de City qui a vraiment des airs de défaite. Hein. On a vu l'égalisation de Jérémy Doku à la 97e minute pour revenir à 3-3 alors qu'ils avaient été menés 3-1 et que Haaland avait marqué déjà quelques minutes après le deuxième but de Thierno Barré. Mais c'est un match nul qui ça te rapporte un point, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait puisque maintenant Arsenal a son destin en main. Il suffit qu'Arsenal gagne tous leurs matchs, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ça aurait pu jouer la différence de but au nombre de buts marqués.
Et il en reste combien? Parce qu'en France, on a oublié qu'il y avait 38 matchs en Angleterre.
Ouais, 3 chacun.
Voilà. C'est beaucoup quand même.
Un peu plus dans City, non?
Non, pas 3 chacun. Gagné, hein.
Non, il en manque un pour City aussi.
Ils en ont 4.
Enfin, 4. Oui, pardon. Ouais, ouais. Il reste 3 journées, mais il reste un match en moins à City à jouer. Donc, 4 et tous les autres, 3. Enfin, et Palace, 4 aussi.
Bon, il ne faut pas qu'Arsenal se dérape pour être champion et ça devrait coller, quoi. Mais il faut tout gagner.
Faut tout gagner. Ils vont à West Ham, ils reçoivent Burnley et ils vont à Crystal Palace pour terminer. Et
ouais, si le seul gros match pour moi, c'est West Ham, Julien, vu que là, ils sont dans une situation compliquée. Mais après, Palace, ils vont préparer leur finale de Conference League.
Contre Strasbourg.
Contre Strasbourg, on le voit les canons. On souhaite Strasbourg, bien évidemment. Mais derrière, j'ai l'impression que c'est quand même une autoroute après West Ham.
Et là, en 48 heures, Arsenal, ça peut être le. La semaine de feu, là.
Finale de Ligue des Champions et derrière, ils ont une balle de match pour aller. Pour aller gagner une première ligue, ce serait fou.
Et pour City, c'est Brentford à domicile. Donc Crystal Palace, le match en retard, à domicile aussi, 3 jours plus tard. Et ensuite, ils vont à Chelsea. Et ils vont à Bournemouth Chelsea, c'est la finale de la Coupe d'Angleterre qui est au milieu. Ils vont à Bournemouth et ils reçoivent Villa. Donc les deux derniers matchs pour City, c'est à Bournemouth et à domicile contre Aston Villa, qui aura peut-être quelque chose à jouer encore ou pas d'ailleurs.
Le Bournemouth de Eli Kroupi, mon chouchou, qui est en grande forme. Hein.
A vaincu en 15 rencontres et qui est sixième, qui peut, il faudra un petit miracle, mais qui peut se qualifier encore pour la Ligue des Champions.
Bon, alors quel est ton ressenti à toi, ce que tu nous dis ce soir? Est-ce que toi, là, ce soir, en tant que suiveur de la Première Ligue, tu vois, ça y est, que c'est réglé, ça va être Arsenal ou pas?
Pour moi, on en avait déjà parlé, c'était du 50-50. Là, Arsenal avait pris un avantage, c'était deux matchs de plus que City. Mais sinon, on l'avait dit, ils étaient à égalité parfaite, quasiment, même à la différence de but, même au nombre de buts marqués, plus ou moins. Et on disait, c'est le premier qui va faire un faux pas, qui va lâcher des points quelque part. On savait qu'il y aurait peut-être une équipe qui allait perdre des points aussi. Le tournant, c'est peut-être ce soir, effectivement, plus que le week-end prochain encore. Si on attendait qu'il y ait une équipe qui puisse avoir son destin en main, et si c'est le cas maintenant avec Arsenal, donc... tu leur donnes un petit avantage, que ce soit un 60-40 par exemple ou 65-35 si tu veux, mais ils ont repris l'avantage, là c'est sûr.
Bon, on va suivre ça avec intérêt. Je renvoie au drôle de dame donc pour toutes les infos également.
Non, mais juste pour finir, pour ceux qui n'ont pas vu le match.
Tu voulais dire un autre coup ?
Énorme erreur. Dans un match où City a plutôt le contrôle de la première période, ils ont beaucoup le ballon, ils marquent un but de Doku sans se faire de frayeur vraiment, sans que ce soit parfait, mais sans se faire de frayeur. Gueye qui a quand même été la recrue, une des recrues phares avec Semenyo de janvier, qui a été très bon pour eux, c'est pas la question, mais là il fait une grosse erreur sur le premier but de Thierno Barry, même si on reparlera beaucoup du fait que sur la première passe initiale vers Barry est hors jeu. Ça veut dire que si Gueye touche pas le ballon, et rappelez-vous, on a vu ça en Ligue des Nations avec Mbappé, je crois, dans le France-Espagne.
Si Gueye touche pas le ballon,
il y a pas but puisqu'il y a hors jeu contre Barré. Le fait que Gueye touche le ballon, tente cette passe en retrait vers
Donnarumma,
Ouais, il se rate sur la passe. Et d'ailleurs, tu vois sur son visage, il voit tout de suite qu'il a raté complètement sa passe. Barré marque, mais Barré était quand même hors jeu sur la première passe du joueur de Manchester City. Après, il y a eu une grosse erreur de Donnarumma sur un corner, mais ça, encore une fois, on les avait prévenus. À chaque fois on le dit, hein, mais à chaque fois c'est la vérité. Hein, ils leur coûtent le match nul à West Ham et dans un sens le match nul de ce soir. Et après ils prennent un autre but à la 81e minute sur une grosse erreur défensive encore, une touche rapidement jouée où tout le monde dort. À un moment, City ou pas City, Guardiola ou pas Guardiola, Haaland, Cherki ou pas Haaland, Cherki. À un moment défensivement, tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça, même contre une équipe comme Everton qui est une bonne équipe, qui peut encore rêver peut-être d'une Conference League l'année prochaine ou d'une Europa League, mais c'est pas quand même non plus l'une des meilleures équipes du championnat.
Bon, bah écoute, merci Julien pour ce petit point. Et tu seras avec nous demain soir, évidemment, après le match entre Arsenal et l'Atlético, qui peut envoyer Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Salut Julien, bonne soirée.
Avec plaisir, ciao, à demain.
On enchaîne avec le jingle Walid pour parler justement Coupe d'Europe et du match du PSG d'après-demain face au Bayern.
J'avais un débat, et je fais un débat depuis plusieurs jours là dans ma tête tout seul, j'aimerais le partager avec
vous. Tu fais des débats tout seul dans ta tête, toi.
Tout seul, je suis un vrai fou.
Alors, on va t'écouter sur Luis Enrique et la stratégie à adopter.
Oui, j'ai fait les débats dans ma tête aujourd'hui. Et on en avait un peu parlé jeudi avec Daniel. On n'était pas d'accord. Je profite de la présence de Jean-Louis ou des auditeurs pour aller un peu plus loin dans ma réflexion. Avec la grosse tuile de Achraf Hakimi, moi j'ai envie de retrouver le Luis Enrique que détestait Daniel. Sur les idées du chapeau façon Guardiola qu'il peut avoir sur certaines soirées de Ligue des Champions qui peuvent parfois coûter à ces coachs-là, parce que je pense que ça s'impose sur cette demi-finale de Ligue des Champions pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Hakimi, j'en ai déjà parlé, mais avec la gestion de la profondeur notamment, va énormément manquer, et par rapport surtout au remplaçant qui pourrait remplacer Zaïre Emery, qui ira donc à la place de d'Achraf Hakimi, Fabien Ruiz, qui m'inquiète. Moi, je l'ai encore vu contre Lorient ce week-end. Je pense que Achraf Hakimi, Fabien Ruiz n'est pas revenu à son meilleur niveau, et j'ai très très peur dans un match avec autant d'intensité que va représenter cette demi-finale retour. Et vu sa rentrée qu'il avait fait déjà contre le Bayern, qui pour moi avait véritablement coûté au PSG dans la dernière demi-heure, moi je ferai des changements. Je tenterai quelque chose, soit Désiré Doué dans l'axe à la place de Fabien Ruiz, pour amener un Barcola qui peut jouer à droite notamment. Moi j'irais sur de la transition au max face à un Bayern qui va devoir jouer son va-tout, qui n'est pas dans un football de renoncement où il n'y aura pas de compromis. Ils vont jouer comme ils jouent contre Augsbourg, comme ils jouent contre Bochum à la maison, en harcelant énormément avec les latéraux, avec Leimer notamment.
Il lui a annoncé la couleur dès la fin du match aller.
Exactement, et moi je pense que avoir un Désiré Doué qui est plutôt en forme et qui mériterait pas de sortir et qui peut assumer 70-80 minutes au très très haut niveau, à une grosse intensité, et qui dans le cœur du jeu peut apporter sa finesse technique et sa qualité de projection pour aller trouver Kvara, Dembélé et Barcola. Je suis pas sûr que faire du conformisme en mettant en faisant du changement poste pour poste avec Fabian Ruiz pour Warren Zaïre-Emery pour Hakimi, avec la perte d'Hakimi, soit une bonne chose. Alors j'ai aucune leçon à donner à Luis Enrique, il mène tellement bien sa barre que c'est pas Walid Acherchour qui va lui préconiser des choses, mais j'avais envie quand même de soumettre cet avis-là. Pour le coup, depuis un moment, il ne fait plus de fantaisie.
Depuis quand ?
Depuis fantaisie. Qu'est-ce qu'on appellerait une fantaisie ? Je pense que depuis janvier, dès qu'il a trouvé Dembélé en faux numéro 9, dès que son laboratoire a fonctionné, le laboratoire qui devait pas exister selon Daniel.
Je reformule. Toi, tu veux le retour de Luis Enrique en mode Jiffy, les idées.
Mode Jiffy, mais de manière circonstancielle, parce qu'il y a une blessure.
Tu veux le retour de Luis Enrique quand ça marchait pas ?
Non, c'est pas bien, forcément. Bien, pas forcément temps, quand ça marchait pas.
Parce que
il y a eu des matchs où ça marchait.
C'est audacieux.
Parce que quand contre City, il a des idées de génie et ça marche notamment. Quand il rentre à...
Oui, là, on était déjà... on avait basculé
deuxième,
déjà.
Non, en deuxième mi-temps.
On était en 2025 déjà.
Oui, en deuxième mi-temps, il met Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Ouais, c'est ce qui fonctionne.
Tu veux dire quand on a commencé à jouer un petit peu plus en transition, qu'on a arrêté les passes latérales et
tout ça. Je préconise la transition avec Désiré Doué, avec Bradley Barcola.
D'accord, vous avez juste deux ans de retard, c'est pas grave.
Mais en tout cas, moi, j'appelle de mes voeux un changement par rapport à l'incertitude de Fabien Ruiz et par rapport à la perte d'Achraf Hakimi et la forme de Désiré Doué, même si je dois être honnête. Barcola n'a pas fait un super match contre Lorient, loin de là.
Ah, pourquoi tu veux alors?
Non, mais de par son profil. De par son profil pour exploiter les espaces.
Alors, Jean-Louis, avant que Daniel ne réagisse, est-ce que toi aussi.
Moi, je comprends le retour
de Louis-Henriquet et Jiffy.
Non, mais déjà, est-ce que c'est vraiment. Il faudrait définir ce qu'est une décision Jiffy, tu vois. Doué au milieu de terrain, oui. Mais par exemple, Dembélé, puisqu'à force.
Il faut créer une compréhension chez le. Tous les trucs qui fascinaient le trio magique.
Non, mais par exemple.
Walid, Flo, Kevin.
Non, mais par exemple, Dembélé.
Il faut créer l'incertitude, toute la philosophie inutile.
Non, mais Dembélé en neuf.
Bah pour Daniel,
en
gros, par exemple,
c'est une fantaisie ou pas?
Ah oui, Dembélé en neuf, à la base, c'est une fantaisie pour Daniel. Après, depuis qu'il a gagné le Jardin, c'est devenu un truc normal. Vitinha en 6, c'était une fantaisie. Pendant un an et demi, il s'est gosillé ici pour dire que Vitinha était un 8.
Il ne faut pas mentir.
Non, je m'en bats.
Alors, je vais te dire.
Daniel, elle est grande, Daniel.
La réalité, Vitinha, déjà, tout le monde pensait que c'était un bidon. J'étais le seul mec qui disait que c'était un très gros joueur.
Ça, c'est autre chose.
Ensuite, en 6, c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autres.
Oui, mais toi, tu disais, je comprends pas pourquoi.
Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me dire, pour moi, Vitinha en 8, je suis sûr qu'il n'aurait pas fait les mêmes matchs et la même carrière.
Ah, moi, je suis persuadé que ça. Que je préfère face au jeu. Je préfère face au jeu que beaucoup plus haut sur le terrain.
Tu réponds ça.
Mais à chaque fois, on en parlait.
En 6, il est extraordinaire, mais en 8, pour moi, il aurait été.
Mais tu critiquais souvent. À chaque fois qu'on en débattait, tu disais, Walid, si un numéro 6, tu mets qui Vitinha ou pas Vitinha.
S'il avait pris Rodri.
Oui, d'accord, mais en fait, le football, c'est pas comme ça.
Non, au début, il l'a mis là parce qu'il n'y avait pas mieux.
Oui,
c'est génial.
C'est un vrai changement.
Mais en 8,
Ougarté, il l'avait acheté 60 millions d'euros pour être le numéro 6. Non, c'était pas vieux, c'était la deuxième saison. C'est la deuxième saison où, encore une fois, avec Luis Enrique, tu préférais Ougarté en 6.
Moi, je pense.
Après le match contre Dortmund, où il se balade, mais c'est pas grave. Tu refais
pas tous les matchs
il y a
20 ans, là.
La réalité des réseaux, c'est pénible.
Moi, je pense juste que dans la tête de Luis Enrique, Doué, c'est pas une option au milieu de terrain. Enfin, je l'imagine pas comme ça sur un gros match. Les rares fois où il l'a fait en championnat, c'était vraiment sur des petits matchs, type Strasbourg au Parc des Princes, des trucs comme ça. Le Havre aussi, je crois. Donc, j'ai du mal vraiment à l'imaginer.
Ah non, il le fera pas.
Mais par contre, s'il y a un vrai doute sur Fabien Ruiz que je partage, je me demande si l'option, même Beraldo au milieu de terrain, au poste, ou Kanginli,
ça ne marche pas
avant. Non, là, pour le coup.
Ça, c'est une idée.
Ah oui, mais il l'a installé depuis au milieu de terrain.
Oui, mais contre Angers, contre Lyon et contre.
Quand tu vas chez Jiffy, il y a des trucs que tu avais déjà trouvé quand tu étais allé il y a deux mois. Ils sont toujours là.
Non, ça, c'est une idée qui pue, ça, pour moi. C'est pas une idée de génie, c'est une idée qui pue. Mais par contre, mettre Vitinha.
Parce que pour moi. Ça pue pas plus que Doué au milieu de terrain.
Parce que Doué au milieu de terrain, il l'a déjà fait et je pense qu'à la récupération du ballon, il pourra se projeter très rapidement
au milieu de terrain. Mais
Warren Zaïre-Emery n'a pas les mêmes qualités que Hakimi parce que sur le premier match, Hakimi défendait sur Laimer ou sur Alphonso Davies et Marquinhos était en 1-contre 1 sur Luis Diaz. Et moi, je pense qu'il y a notamment sur le but d'Olise, il y avait des gros problèmes à fermer dans l'axe avec Moussiala et je pense que Warren va avoir un rôle beaucoup plus axial entre la défense et le milieu de terrain que Hakimi avait sur la première mi-temps.
Donc mon
avis c'est que Doué et Barcola, moi j'aimerais avoir beaucoup plus de verticalité avec le.
Bon, Doué tu le mets sur le banc ou sur le terrain?
Non, sur le terrain.
Moi,
Fabien Ruiz il est pas prêt.
Tu le mets au milieu.
Et Doué je le mets au milieu.
Donc
je fais Doué, João Neves, Vitinha en 6, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Barcola à droite, Guevara à gauche, Dembélé en 9.
Moi je pense pas aussi pour une autre raison, c'est que ce match ce serait beaucoup trop offensif et je pense que l'idée de Luis Enrique ça va être justement de faire autre chose qu'à l'aller et d'essayer d'avoir un peu plus d'emprise sur le match.
Pour moi il faut le même match qu'à l'aller. Et je pense qu'avec le même match qu'à l'aller avec les joueurs dans un match ping-pong, je pense que tu crèves beaucoup plus le Bayern qui te crève.
Allez, Daniel a la parole juste après la pub. Moi, je vous dévoile un petit secret. Je suis allé chez Jiffy la semaine dernière.
Et t'as acheté quoi?
J'avais besoin d'un thermomètre.
Un thermomètre.
J'ai trouvé un magnifique thermomètre à 2,50€.
Ah oui.
Mais est-ce que ça marche les trucs chez Jiffy?
Bah le thermomètre marche très bien. Par contre j'étais choqué, ils vendaient des cookies chez Jiffy.
Mais c'est quoi le concept de Jiffy, j'allais demander pourquoi il y a des idées de génie, en fait
c'est de la trouvaille.
Mais c'est quoi, c'est comme But et Darty en fait?
Non, c'est vraiment beaucoup plus bas de gamme.
Ah d'accord, ok.
Jiffy, il y a tout.
C'est les bonnes affaires quoi.
C'est ta lessive, du bricolage, des chaises de jardin.
C'est Mathieu Louis Jean.
Tu prends toujours pas le slogan les idées de génie.
Ouais, bah c'est un slogan quoi.
Bah parce que tu vas rentrer, dans le magasin. Il y a un truc que t'as pas pensé, tu dis c'est une super idée ça pour chez moi.
C'est une idée de génie.
Voilà.
C'est une idée de génie.
Comme Dembélé en neuf.
Par exemple.
Voilà,
allez, on continue.
Comme quoi c'est une grande idée. Putain, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h19. Olivia Churchorella, Daniel Riolo est là. Et Jean-Louis Tour, bien sûr. On continue le débat autour du match d'après-demain et de la stratégie que doit adopter Luis Enrique après le match aller complètement fou. D'ailleurs, vous espérez un match aller aussi fou ou vous le voyez pas aussi fou?
Ah, moi non. Moi, je le vois plus fermé.
Toi, tu vois serrure.
Ce serait la logique.
Quoi, moi, je pense que justement, en plus, Luis Enrique, il a fait ses grandes déclarations de il faudra mettre au moins 3 buts au retour. Et
donc, tu veux dire que les deux coachs vont faire l'inverse de ce qu'ils ont l'habitude de faire?
Bah, je pense que oui.
Et surtout dire ce qu'ils vont.
Avec la pression de l'élimination, après, je serais.
Compagnie nous mentirait alors.
Non, mais je peux me tromper aussi, hein. C'est une certitude. Mais je sais pas. Je me dis la pression de l'élimination, le fait qu'il y a un score à tenir, voilà, ça fait que tu vas moins te lâcher qu'à l'aller.
Après, sur la première mi-temps.
Et l'absence aussi d'Hakimi fait qu'à mon avis, Zaïre Emery va être un profil un peu plus défensif, là où Hakimi laissait beaucoup son côté.
Contre le Real, la première mi-temps, elle est complètement folle. Après, en deuxième mi-temps, il y a de la tension. Mais déjà, il y avait un match ping-pong en. Bon, après, il y a
ça
la.
Ça a quand même fait 4-3.
Hein. Oui, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu plus regardés qu'en première mi-temps.
Et surtout, on a vu un Real qui, dans le début de match, a donné l'impression qu'il pouvait se qualifier. Et donc, claquer un gros coup là-bas. Ce qu'a fait le Real là-bas. On a presque envie de dire que le PSG peut le faire.
Ah oui.
Et le Bayern, en mieux, sans être repris en championnat,
sans être repris comme le Real a été repris par forme.
Quand même. Ouais.
Donc moi, honnêtement, c'est comme le match aller. Je ne veux m'attendre à rien.
Lassana est là. Lassana, bonsoir.
Je vais pas répondre en fait.
Bonsoir les gars.
À quel moment on doit faire le débat et je réponds pas alors.
Vas-y, mais là c'est Lassana. Ce sera toi après.
Ok. Salut l'équipe. C'est pas logique, mais.
Salut Lassana. La logique. Luis Enrique, il est logique.
Il l'est beaucoup même.
Lassana,
depuis qu'il l'écoute, il l'est.
Exactement.
Lassana, toi, tu penses que Doué au milieu, c'est du suicide?
C'est du suicide. Doué au milieu de terrain, il perd énormément de ballons. Moi, je m'attends à ce que Bayern ne nous mette la foudre pendant les premières minutes. Doué au milieu de terrain, il perd full off de ballons. Doué, c'est quasiment plus un milieu de terrain. C'est plus un ailier aujourd'hui. Il prend trop de risques et tout. Il va leur rendre des ballons et on va les mettre en confiance. Et la première mi-temps, on va être acculé si on met Doué au milieu de terrain.
Fabien Ruiz, il t'a rassuré, toi, la semaine dernière?
Il m'a pas rassuré, mais il a des automatismes que je pense qu'ils vont revenir naturellement.
Okay.
On sait qu'on va souffrir. Dans tous les cas, on va être dans la première mi-temps. Je pense que ça va être un peu sur le modèle Liverpool. On va être assez bas. Pour ressortir le ballon et les prendre en compte, je préfère un Ruiz qui pourrait lancer les flèches qu'un Doué qui va.
Ah, mais moi, si c'est le Ruiz à 100%, il n'y a pas photo. De toute façon, le Ruiz à 100%, il passe devant Zaïre Emery. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a depuis le début de saison.
Même à 70% pour une mi-temps, pour 60 mi-temps, je préfère lui qu'un Doué à 100% qui va tenter des grisos au milieu de terrain ou des passes trop compliquées et qui va nous mettre le feu.
Après, là où t'as raison, c'est que moi, je me dis, c'est pour ça qu'il le fera pas, même si je le préconise, c'est qu'il va se laisser quand même une gâchette offensive entre Doué et Barcola sur le banc.
Oui,
parce que ça peut faire 120 minutes, et là-dessus, je pense que...
C'est bien d'avoir fait un avis, de croire à quelque chose pour casser l'avis de toi-même, minutes après.
Ah non, pas du tout, Daniel. Moi, je pense qu'il faut le faire, parce que sur les 63 minutes, il faut impacter.
Je pense qu'il le fera pas, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée, après, c'est mieux de le faire en cours de match.
Après, bien évidemment, je suis pas sûr que, enfin, à mon avis, il est impopulaire de mettre Désiré au milieu de terrain, donc bien évidemment qu'il le fera pas, mais moi je suis convaincu.
Mon tour, je vais laisser parler Lassana.
Ce que je pense, c'est que pour la profondeur à gauche, on aura Mendes qui va jouer bien plus haut vu qu'il n'y a pas Hakimi de l'autre côté, donc il n'y a pas forcément besoin de démarrer avec Barcola. La profondeur à gauche, Mendes il va la porter et ça va être Warren qui va faire le troisième défenseur central à droite qui va fermer. Donc tu vas voir que Mendes demain, je pense que c'est lui qui va leur faire mal, tu vas voir, dans la profondeur.
Alors, Lassana, on va faire un truc. Vu que Daniel boude un peu, vu que t'es passé avant lui, tu vas l'écouter et après tu vas nous dire s'il a raison.
Voilà. Ok.
Daniel, à toi.
Non, mais j'ai trouvé ça amusant que, bon, un peu moins Jean-Louis, mais que Walid réclame le Luis Enrique que je surnommais Jiffy, puisque c'est justement quand il a arrêté d'être Jiffy qu'il est devenu champion.
Un des meilleurs du monde.
En tout cas, le PSG a changé Luis Enrique et Luis Enrique a changé le PSG quand ils ont arrêté. Je vais rappeler pour la millième fois quand même que dans les deux années où il est à la tête du PSG en route en Ligue des Champions, la première année, ça sort de la poule par miracle avec un pénalty tombé du ciel, et la deuxième, le club se voyait même pas sortir de la poule. Mais on n'avait pas le droit de les critiquer à l'époque, bien sûr, parce qu'il fallait anticiper sur le formidable travail. Le formidable travail, ça a été surtout. Non mais maintenant, je vais quand même un petit peu parler. Je pense qu'on connaît tous ta version. Je me fais défoncer depuis un an là-dessus. Donc moi, je vais continuer à croire à ce que je dis parce que j'y crois profondément et parce que moi, j'ai les infos sur ce qui s'est passé et que les gens n'ont pas les infos et que vous avez les intuitions.
Non, on avait le droit de les critiquer, mais
il y a plus de débat. Vous avez vos intuitions.
Il fallait plus les critiquer. Tu continues.
Non. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où effectivement le Jiffy on l'a perdu, c'est-à-dire qu'on n'avait plus des compos qui changeaient, des joueurs qui jouaient à des places qui n'étaient pas réellement les leurs. Et pourtant, en plus, je vais te dire, ton idée je la trouve pas si nulle que ça, parce que il pourrait mettre Doué au milieu, ça pourrait, sauf que aujourd'hui, Lucien Riquet est rentré dans une autre logique, qui est une logique inversée à celle. Moi, vraiment, tout le monde doit s'en souvenir. Il venait de signer au PSG, j'avais dit, avec cet entraîneur-là, tu peux aller aux plus grandes victoires, mais comme Guardiola, tu peux également échouer parce qu'un jour, il va faire un truc un peu bizarre. Le truc bizarre, c'est Blanc contre City en 2016, ou Guardiola qui faisait tout le temps un truc chelou dans des matchs importants qu'il aurait dû gagner 1000 fois en Ligue des Champions. Sauf que Luis Enrique est peut-être plus intelligent. Il a arrêté ça. Quand il a senti le vent du boulet, notamment la deuxième année, sur cette fameuse phase de poule où Nasser Al-Khelaifi dit « si on sort pas de la poule, c'est pas grave », et que je suis avec Luis Campos qui me dit « oui, on a peur ». En début décembre 2024, oui, on comprend pas trop ce qui se passe en ce moment, et que d'un coup, tout se clarifie, tout devient formidable et son management devient incroyable et l'équipe, elle est d'un coup claire. Il y a plus d'invention, il y a plus de 4-4, je sais même plus comment ils jouaient, tellement quand j'ai dit c'est un 4-3-3 basique, on m'est tombé dessus. Oh, 4-3-3 basique, ça veut pas dire que les joueurs ils bougent pas sur le terrain, bande de bidons. Vous comprenez pas ça ?
Mais non, mais t'as pas dit ça comme ça.
À chaque fois. Ouais. Quand on dit 4-3, tu prends l'équipe 4-3-3, et tu mets
4-3-3,
les joueurs.
4-3-3,
on est d'accord, ils y sont. Oui, ou non. Sauf que le Barça, il jouait dans un 4-3-3 à l'époque ou pas?
Oui.
Les joueurs, ils ont le droit de bouger.
Mais il n'y avait pas autant
Daniel
de mouvements.
Daniel Jordi Alba, ça montait ou pas?
Oui, mais il n'y avait pas autant de mouvements.
Messi ne bougeait pas.
Non, mais ils interchangeaient énormément de possessions, de positions, Daniel.
Et Daniel Jordi Alba, il ne montait pas. C'est pas des latéraux.
Il montait, il y avait des dédoublements. Mais là, encore une fois, ce n'était pas la même chose. Fabien Ruiz pouvait se retrouver numéro 9.
Ok, il n'y a pas de problème.
Mais c'est pas beaucoup mieux, c'est différent.
Ok, bon, bref.
Ouais. Parce que là, demain, il va jouer quoi, Warren Zaïre-Emery, demain?
Il va jouer avec une mission spécifique.
Non, mais il va jouer quoi? Quel poste?
Normalement, il va jouer arrière droit.
Ok, c'est une invention de qui?
Il n'y a pas de problème. Il a le droit de trouver un nouveau poste pour un joueur.
D'accord, ok. Donc voilà.
C'est son invention.
Demain, s'il n'y a pas cette invention-là, tu te retrouves comment demain? Tu joues avec qui?
Ce que j'essaie de te dire depuis 2 ans, ce genre de choses-là. Parce que vous êtes en dévotion. Moi, je dis juste, ce qu'il fait est remarquable.
L'année prochaine, si t'as un souci au poste de numéro 6, tu auras Beraldo en 6, c'est parce qu'il a prévu ça. Et ça, tu veux combattre ça, toi?
Mais pas du tout, c'est pas vrai. Tu te trompes. C'est là que tu vois. En fait, c'est parce que vous êtes à l'église. Et moi, je suis dans la réalité. Okay. Vous êtes en dévotion, pas moi.
D'accord.
Daniel Bravo, il a changé de poste. Pirlo, il a changé de poste. Oui. Laurent Blanc, il a changé de poste.
Oh, c'est très bien.
Les latéraux, tout le monde. L'histoire du football, elle nous propose ça. Il n'y a pas besoin de se mettre à
chaud. Toi, t'as dit depuis qu'elle a arrêté, il y a des matchs. Demain, il y a une solution qui est réglée par une invention de Luis Enrique.
Bon, mais quelle invention, Daniel?
De Zaïre Emery, qui n'a jamais joué à droite avant Luis Enrique en latéral.
Ok, alors je te l'accorde, c'est génial, c'est fantastique.
Mais c'est pas génial, c'est une réalité.
Mais si, parce que vous employez tout le temps les termes de génie.
Qui a dit ça?
Vous parlez
une idée.
C'est génial.
Ouais.
Ok, c'est super. Donc, j'en reviens à ton avis. Mais non, c'est vous qui le faites. J'en reviens à ton idée. Moi, je pense qu'il a trouvé, il a des certitudes dans ce qu'ils font, dans ce qu'il fait, pardon, et dans ce que l'équipe fait. Avec des postes qui sont maintenant Zaïre Emery, il est milieu, et quand il y a un trou, il va arrière droit. Pardon, ça c'est déjà vu. Le mec qui a 2 postes dans un match.
Mais qui a dit que Luis Enrique a fait des choses jamais vues dans 150 ans de football, en fait? Qui a dit ça? Mais qui le fou a dit ça? Quel fou a dit ça?
Kevin le dit régulièrement.
Ah, il dit que lui, il a inventé l'eau. Il a inventé l'eau, Luis Enrique.
Le feu et la terre.
Ah ouais, non, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas. Bon, c'est pas vrai.
Je pense que la façon dont l'équipe joue et avec les certitudes qu'elle a, à savoir. D'ailleurs, on l'avait dit l'autre fois, Barcola méritait peut-être, machin, mais en fait, quand Kvara joue. C'est Kvara. En fait, il y a une hiérarchie. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas la hiérarchie qui se fait. Il y a une vraie hiérarchie. Alors qu'on pense que plutôt ce genre d'entraîneurs n'ont pas d'hiérarchie. Lui, il en a une très claire. Il a un 11 qui est très clair maintenant depuis un peu plus d'un an.
Oui.
Ça me plaît. Il a détaché la hiérarchie.
Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux dynamiques? Comme quand Kvara était mort avant Chelsea, qu'il le met sur le banc. Là, Fabien Ruiz, qu'est-ce que tu fais avec Fabien Ruiz? Demain, c'est ça le débat. Est-ce que tu vas avec Fabien Ruiz ou est-ce que s'il met Doué et qu'il passe pas, demain soir, tu le termines?
Fabien Ruiz, je pense que tu l'as un peu dit. S'il a, de la part du staff médical et de la cellule performance, la conviction qu'il est même à 80%, Fabien Ruiz jouera. Parce qu'il apporte quelque chose dans le milieu qui évitera un changement, qui évitera quelque chose qu'ils n'ont pas assez travaillé en match, en situation de match, surtout pour un grand match comme ça. Si en revanche la cellule performance lui dit il peut pas te faire, ou alors peut-être il peut te faire un bout de match et il le découpera le match. Aujourd'hui t'as le droit à 5 changements. Tu peux adapter ton équipe en cours de route. T'es pas
t'es pas cloué par ton équipe du début. Mais normalement, au début, on devrait avoir Fabien de Ruiz, à moins encore une fois qu'il n'ait pas le niveau physique. Zaire Emery à droite, Doué, Dembélé, Gvara.
On y va en safe.
Et je pense que c'est pas utile sur ce genre de match de tenter de tenter un truc un peu prétentieux, comme un peu changé.
Je pense qu'il peut les abattre avec
comme
Doué.
Comme premier mot de la fin avec Lassana. Lassana, est-ce que Daniel t'a convaincu?
Moi, franchement, non. J'explique pourquoi. Parce que moi, je pense que ce qu'il appelle le JT, c'était nécessaire pour avoir les certitudes qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'il a trouvé la recette de Luis Enrique, pourquoi il va continuer à faire du JT? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui,
c'est ce que j'ai dit.
Mais c'est le JT qui l'a amené à
ça. En fait,
Lassana, toi, quand il mettait Kang In-Lee, Faux-Neuf, quand il faisait tous les changements, toi, tu faisais partie de ceux qui comprenaient. Toute la terre entière critiquait, mais toi, tu comprenais.
Bah, mais Dembélé Faux-Neuf, il l'a essayé.
Mais ok, mais très bien. Mais on va pas se mettre à genoux pour une décision.
Tu comprenais quand il mettait Asensio Faux-Neuf? Moi, je comprenais quand il mettait Asensio
Faux-Neuf. Ça m'avait plu.
Tu comprenais l'idée. Donc, tu sentais que lui, les neuf, il aimait pas ça.
On l'avait vu déjà quand même.
Oui, bien sûr.
Roberto Baggio, ça avait existé ce genre de choses, non? Déjà,
il lâche pas.
Non, mais c'est si vous découvrez maintenant. Donc, bon.
Vas-y, Lassana.
Tout à l'heure, Daniel, tu parlais de la transition, par exemple. Quand le PSG, ils se sont entêtés à faire de la possession, de la surpossession, et ça en devenait ennuyant. Mais moi, j'ai l'impression que c'était fait exprès justement pour les aider, pour mettre ce jeu-là en place.
Ah, d'accord, c'était fait exprès. En fait, Lassana, la différence, elle est là. C'est que vous croyez comme à l'église et pas moi, c'est tout.
C'est ce qui est plus facile. Donc, c'était pas.
Moi, je pense qu'il a juste changé, c'est tout. C'est actualisé.
Moi, je pense pas qu'il ait changé. Moi, je pense qu'il a voulu forcer le trait pour mettre le jeu de position bien en place. Et qu'une fois
donc, il a forcé le trait au point début décembre qu'au club, on se demande si on n'est pas en catastrophe et qu'on annonce qu'on va peut-être pas sortir de la poule. Et vous, cette fable-là, vous allez y croire encore pendant 20 ans. Vous allez croire à cette fable pendant 20 ans.
La salle, merci.
Mais c'est incroyable de croire à ça. Le club annonce, on sortira peut-être pas de la poule et vous continuez à croire à ça, vous.
Merci, la salle.
Ah, c'est extraordinaire. Mais en fait, c'est ça. Le problème, le foot, c'est comme le militantisme politique. C'est que
mais là, t'es en fait, tout
on croit aux choses.
Tu mélanges
le militantisme politique, la religion, mais le foot, c'est le même plan.
Quoi,
on croit aux trucs.
Tu dis n'importe
mais il y a de l'info. Ouais.
Mais,
y a
non.
De l'info.
Mais là, il te parle pas de ça. Il te parle de sa conception d'une équipe. Comme quand là, il est en train de mettre Beraldo en 6. Comme là, il est en train de mettre Beraldo en 6. Il prépare ça dans son laboratoire de Ligue 1 pour que derrière, ces mecs-là progressent. Pour qu'au final, l'équipe. Mais voilà, mais c'est ça qui te parle. Et toi, tu voulais pas le comprendre. Mais Lee, à la base, il cherchait le bon joueur en numéro 9. Il s'est trompé sur Lee. Mais c'était sa conception du poste de numéro 9 et c'est avec Dembélé qui voulait faire la même chose l'année d'avant contre la Real Sociedad où il a voulu le réaxer et c'est l'année d'après qu'il a eu les bénéfices. C'est comme quand moi tu vas me mettre ta génération after à 20h pour que sur la première année je progresse et à un moment je te rentre dedans à 22h parce que je suis prêt. Et c'est ça Luis Enrique.
Mais encore un peu. Regarde l'histoire.
Oui, mais c'est comme dans l'histoire du foot en fait, c'est ça, il le comprend pas et à l'époque
mais
il le
désinguait.
Mais à l'époque tu le désinguais à l'époque.
Qui
Luis Enrique.
Quand
tu disais mets les joueurs à leur place.
C'est ce qu'il a fait.
Comment ça? Non, Vitinha, c'était un 8. Dembélé, c'était
besoin,
un ailier. Warren Zaïre Emery, c'était un milieu.
Qui ça?
Warren Zaïre Emery, c'était un milieu.
Oui, c'est un
Dembélé,
milieu.
C'était un ailier. Vitinha, c'était un 8. Il a changé de place.
Mais si on
certains
parlait pas
joueurs,
de ces places-là, tu sais très bien qu'on parlait pas de ces places-là.
Bon, okay.
De
tous les changements. On va passer à un club beaucoup plus intéressant dans quelques instants.
Et tout de suite, le club de
Strasbourg.
Et tout ça.
Il faisait ça contre Louan Cuiseau.
À tout de suite, à la fin.
Tu mens en Ligue des Champions, il l'a fait. Arrête.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Walid Acherchour, changement de club. On va parler toujours Coupe d'Europe d'ailleurs, parce que Strasbourg joue jeudi face au Rayo Vallecano en Conférence League. Un petit jingle, Jean-Louis Tour, s'il vous plaît. Alors, s'il y a 23h35, il est toujours aussi frais qu'à 20h.
Bah oui.
C'est parti.
Ah mais oui, excellent. Je partais de la Coupe du Monde, je partais en vacances et je prenais l'avion et il me dit je t'ai reconnu en regardant ton ventre. Mais oui, Romain, je me rappelle bien sûr.
Oh, le jingle.
Non, bon, il y en a un autre quand même.
Oui, c'est vrai que c'est toujours le même.
Voilà. Je suis encore en forme parce que j'ai pris des pop-corn là depuis un quart d'heure, je me régale. Je pense que c'est le bon moment de faire le bilan de la saison de Strasbourg.
Ah bon?
Oui.
Avant la demi-finale.
Oui. Mais vous allez comprendre
la demi-finale.
Je déconnecte complètement.
Avant la finale de Leipzig, tu veux dire?
Oui, avant la finale.
C'est pas fait. Parce que je déconnecte mon avis des résultats de la fin de saison. Et je trouve que c'est le bon moment parce qu'après il y a les autres enjeux en fin de saison, la Coupe du Monde. Gilbert va prendre 2 semaines de vacances, donc c'est le moment. C'est ce soir.
Du monde, c'est normal.
Ouais, non, mais c'est pour ça physique. C'est pour ça qu'il fallait le faire ce soir. Donc, déjà, je vais vous montrer quand même que je suis pas arc-bouté sur mes idées anti-multipropriété, etc. J'ai accepté ce que vous m'avez expliqué.
Ah, tu fais un pas vers Gilbert,
Gilbert et Daniel. Les deux, je fais un pas vers eux. Parce que j'ai bien compris.
Je suis pas. Je connais Jean-Louis. S'il vient pas vers nous, c'est que derrière, il va se passer un truc.
Non mais voilà, il n'y a pas le choix. La multipropriété, il faut faire avec. C'est un des rares modèles dans le foot aujourd'hui, etc. Bon, ça, d'accord, allez. Mais par contre, là où je lâcherai pas, c'est qu'il y a des trucs qui m'ont choqué dans la saison. Un manque de respect envers Strasbourg. Je suis toujours choqué que Gilbert laisse passer ça, mais qui, selon moi, ne doivent plus se reproduire. Donc, que cette saison serve à Blouko pour une meilleure multi, pour mieux faire les choses par la suite, ou le club numéro 2, en disant les choses clairement, Strasbourg est le numéro 2 de Chelsea, et il doit être davantage considéré. J'ai trois exemples.
C'est un avis du mois de juin, ça. Je pense
J'ai trois exemples à ne plus reproduire, et je pense que vous les avez en tête, mais faire des pieds et des mains pour qu'Emega fasse une saison en plus, alors qu'il a déjà signé à Chelsea, mauvaise idée. D'ailleurs, ça aurait été bien d'avoir, bon, soit lui, s'il n'était pas blessé, soit son remplaçant, s'il avait vraiment la tête à Strasbourg pour le match-là.
À mon avis, il va prendre un coup.
Non, mais là, il est blessé. Attends, ouais, la saison, elle est presque finie. Donc, c'est compliqué. Ensuite, Rosenior, l'appelé en catastrophe à Chelsea, mais ça, c'était fiasco total, parce qu'elle arrivait échec à Chelsea, donc, on change d'entraîneur en cours de saison. Et puis, alors, le dernier, là, que moi, j'ai jamais oublié, rappeler Mamadou Sarr, donc, en prêt, parce que c'était hyper important, c'était crucial pour l'avenir de Chelsea. Il a fait deux matchs en championnat. Il est même plus dans le groupe, donc il l'aura pas trié pour rien. Tout ça, ça affaiblit Strasbourg, ça apporte rien à Chelsea, ces trois trucs-là. Donc, il faut mieux considérer Strasbourg, et j'en veux surtout à Blouko, dans mon avis. Voilà, pour cette gestion catastrophique. J'en veux un peu moins à Marc Keller, qui a subi tout ça. Quoique, je lui en veux quand même sur un truc, c'est sur la communication, puisque sur chacun des trois exemples, il nous a quand même expliqué à chaque fois que tout était prévu, que c'était normal, qu'il suivait Gary O'Neill depuis longtemps, sous-entendu, c'est fait exprès que Rosenior s'en aille et qu'O'Neill arrive, que Sarr, il y a Anselmino qui arrive de Dortmund où il était prêté, etc., pour le remplacer, ça va être bien.
On l'a jamais vu, non, Anselmino, non?
Qu'est, non, c'est jamais vu non plus. Kemega, c'était génial qu'il reste une année de plus, qu'il fallait dire merci à Blouko de le laisser. Bon, voilà, toutes ces histoires de communication.
Je vais rétablir quelques vérités quand même.
Ah bon? Ah bah, il y a que des vérités là.
Non, maintenant, erreurs factuelles.
Une fois qu'on a dit ça et que tout le monde est d'accord pour raconter la bonne histoire de ce qui s'est passé à Strasbourg, il y a aucun problème. Le foot va reprendre le dessus sur la fin. On va être derrière Strasbourg contre le Rayo Vallecano. Éventuellement,
ah, finale, tu te couvres sur la fin d'avis. Tu l'as vu, Daniel, ou pas?
Pas du tout. On est supporters du foot français. Il y a aucun problème. On sera derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que ça gagne ou que ça perde, ça empêchera pas ce que j'ai dit. Ça empêchera pas les critiques qu'il doit y avoir sur le fonctionnement de la multipropriété, sur ce qui s'est passé à Strasbourg cette année, et donc quelle que soit l'issue de la saison, ce que j'ai vu cette année, je ne veux plus le revoir.
D'accord. T'as oublié un cas que tu aurais pu donner aussi, qui ne laissait pas un départ vers Chelsea, c'est Bakwa.
Ils l'ont vendu, Bakwa.
Oui, mais Bakwa, c'est pour moi erreur.
Ah, il fallait pas le vendre.
Ah bah non.
C'était une belle vente.
35
millions. Tu m'as expliqué ça l'été dernier.
Oui, mais avec le recul, Bakwa n'a quasiment jamais joué de la saison.
Ouais, il a eu une blessure.
Après. Oui, mais ça, c'est l'histoire d'un club qui doit vendre, etc. Bon. C'est pas la multi.
À ce moment-là,
il y a un criminel. Et moi, globalement, je suis pas en désaccord avec toi, en fait. Hein.
Ah bah.
Moi aussi.
Quelle belle fin de saison.
En tant que Strasbourgeois, ça me contrarie que Sarr parte pour rien.
Capitaine.
Que Rosenior parte pour rien. Effectivement, je.
D'ailleurs, ça pour rien.
Bah, ils ont rien apporté à Chelsea, tu vois.
C'est-à-dire.
C'est ça. Bah, l'idée, c'était d'aider Chelsea. Ces mouvements-là.
En quoi, vous regardez
le climax. Bah,
c'est leur entreprise. Ils font des conneries à l'intérieur. Eux, ce qu'ils regardent, c'est les lignes comptables. Ah bah. Je pense que leur dossier prioritaire, c'est ce qui se passe à Chelsea où le club ne ressemble plus à rien. Strasbourg, c'est peut-être ça qui va sauver un peu la vitrine.
Le climax,
et si
de l'erreur.
Hasard, ça va. Victoire dans une Coupe d'Europe. Je dis même pas. Bah, quel point, c'est champagne,
c'est
quoi.
C'est champagne.
Donc, le vrai problème de Blouko, c'est Chelsea. C'est pas Strasbourg.
Le climax de l'erreur, c'est quand Rosenior a eu cette punchline qui est pas du tout passée à Strasbourg. Quand il a dit, de presse, les supporters devraient être fiers que je parte à Chelsea. Alors là,
franchement.
Oui, mais sauf que ça, en fait, ça, c'est une appréciation de communication de notre balcon. D'un point de vue du balcon US, ils n'en ont rien à cirer.
Ah bah,
le côté du supporter de Strasbourg,
c'est tout ce que je dis.
Mais nous, on n'a rien à cirer du balcon US.
C'est tout ce que je dis. Il faut que les US aient un peu plus de considération.
J'ai essayé de vous expliquer que c'est pas leur problème à eux.
On a bien compris.
Donc, je sais pas de quelle façon, en fait, tu peux leur faire comprendre les envies, les attentes d'un supporter français de base.
Pour moi, ça doit être à Marc Keller. C'est le rôle de Marc Keller d'expliquer ça à Blouko.
Ah, c'est ça qu'il faut que tu dises, dans ton avis.
Ah bah, je l'ai rappelé.
Alors, juste sur Emega, je rappelle quand même factuellement un truc.
En fait, il doit être un peu un gardien du temps.
simple, au moins en termes de communication. Dire, le dites pas, mais après le truc, tu vas dire, ouais, mais c'est que de la com, parce qu'au fond, derrière, si derrière, c'est pas pensé, moi, ça m'agace un peu, c'est un peu comme si on se fout de ta gueule, au fond.
Ouais, sauf que là, on a eu les deux.
Ah, mais là,
les maladresses
le
de com,
cas Emega et en plus, c'est une mauvaise décision. La communication d'Emega d'aller à Chelsea, je vous ai raconté pourquoi ça s'est fait. Oui. Et en fait, Strasbourg l'a totalement subi. Cette communication-là.
Oui, quand,
en fait,
quand il allait faire les photos, etc.
Et Mega, il fait les photos parce qu'il met la pression à Chelsea en disant « Vous m'avez fait une promesse de signer ce contrat. Moi, j'ai besoin qu'on communique maintenant parce que moi, je veux aller à la Coupe du Monde. » Et comme Ronald Koeman, il regarde jamais le championnat de France, s'il sait que je suis à Chelsea, là, tout à coup, je vais... Et ça a été le cas, en plus.
Bah là, on est quoi?
Ça a été le cas, il a été pris.
On est dans des intérêts. On est dans des intérêts privés.
À tel point que Koeman, hier, qu'est-ce qu'il fait après le match? Il est dans une émission de foot aux Pays-Bas. Et Koeman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh, on vient de perdre un attaquant que je voulais sur le prendre à la Coupe du Monde. » Donc ouais, ça a marché en plus pour
mais on n'est pas
terrible,
dans des intérêts privés, puisque Marc Keller et Strasbourg ont fait des pieds et des mains pour qu'il fasse cette saison supplémentaire à Strasbourg. Connaissant le mec, etc., il a signé à Chelsea, bah ciao, va à Chelsea.
Mais
on
si, prend mais il signe en pleine saison, il signe pas au début de la saison.
Non, il signe
pas à la fin de saison.
Jean-Louis, il faut être
non,
c'est début de saison.
Non, début de saison.
Oui, début de saison.
Jean-Louis, il faut être pragmatique.
Et bah, début de saison, tu lui dis, va tout de suite à Chelsea.
T'es dirigeant à Strasbourg.
Mais il fait les photos post-mercato.
Oui, mais il signe quand même l'été.
Ah, d'accord.
Il va faire les photos.
T'es dirigeant à Strasbourg. Tu vois, à ce moment-là, Emega, qui est ton attaquant numéro 1, qui sort d'une excellente saison. Panicelli, tu sais pas ce que ça va donner.
Après, t'as mis 16 millions sur Panicelli.
Et après, t'as personne. Et tu fais quoi? Tu fais tout pour regarder Emega.
Bah non.
Mais Emega,
à ce moment-là de la saison,
mais
tu fais tout pour regarder.
Mais Emega, ça a été un poison toute l'année.
Bah ça tu, oui, mais tu le dis maintenant. Savoir,
non, mais ça a été un poison maintenant. Oui, d'accord, tu le dis maintenant.
Savoir,
oui,
il sort de la saison où il a mis tous ses buts, tu dis c'est mieux de l'avoir.
Ah, mais tout de suite, rapidement, tu vois que dans le jeu avec Panicelli, ça va être compliqué.
Et puis encore une fois, il a signé à Chelsea, donc il y a un moment donné dans la saison où il ne va penser qu'à son avenir à Chelsea, sa blessure, etc. Et il
ne
fera pas passer Strasbourg en premier.
Ça, je suis d'accord. C'est une limite claire et nette.
Et Mamadou Sarr, c'est le pire ou pas dans tout ça?
Rosenior, c'est quand même
Mamadou Sarr, je pense que Mamadou Sarr, si tu lui demandes est-ce que tu aurais préféré finir la saison à Strasbourg, il restait.
Sans doute. Parce c'est pour ça que je trouve que Rosenior, c'est le pire, parce que c'est Rosenior qui pousse
exactement comme nous.
Il joue pas.
Mais alors, ils s'en foutent.
Mais il joue pas s'il prend une s'il prend une sacoche.
Depuis quand
ça aussi, il a un enjeu Coupe du Monde avec le Sénégal.
Mais il y est, de toute façon, il n'y a pas de problème.
Mais je pense que tous les mecs qui jouent à Strasbourg, on leur a vendu Chelsea à un moment. Mamadou Sarr compris, Rosenior compris. Donc au moment où Chelsea appelle, ils peuvent pas dire ah bah non, je veux absolument rester à Strasbourg.
Et puis Mamadou Sarr, il est quand même dans les deux matchs. C'est quand même, il y a un match contre le PSG à Stamford Bridge, non?
Oui.
Il est sur le but de Kvaratskhelia.
C'était deux matchs en championnat, il y avait en plus un en Ligue des Champions.
Donc je pense qu'à ce moment-là, quand il part et il te dit je vais récupérer Rosenior qui me kiffe et une Ligue des Champions et une Première Ligue, je pense que ce soir-là, je crois que c'était un match après le PSG en plus. Mm. Parce que c'est un match de championnat quand il y a le carton rouge et il est même sur l'erreur du but du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il file tout de suite à Stamford Bridge Mamadou Sarr. Après oui, avec le recul ça aurait été un peu plus compliqué.
Mais bon, voilà. Sans Blouko, Strasbourg n'est pas en demi-finale de Coupe d'Europe, je pense. Parce que t'as jamais cet effectif-là.
Moi, je trouve la vie un peu prématurée d'un point de vue du timing.
Et peut-être que ça peut être une saison historique.
Et non, c'est pas prématuré. À partir du moment où t'es d'accord avec moi sur les erreurs qui ont été faites, il faut plus les revoir.
C'est-à-dire que malgré les erreurs, peux finir la saison en gagnant une Coupe d'Europe.
Mais même si tu gagnes une Coupe d'Europe, je veux plus revoir ces erreurs-là. Tu peux pas tout balayer comme ça, tu vois. Ces erreurs, si t'es d'accord avec moi, Gilbert, pour les accepter, il faut plus les revoir.
Moi, je
dis que la Coupe d'Europe peut pas tout emporter.
Moi, je t'aurais dit que j'ai l'impression que les erreurs, en fait, si eux-mêmes ne comprennent pas que c'est des erreurs, les corriger, c'est comme si tu fais rien. Si c'est juste un vernis de communication qu'on met dessus, j'estime que ça ressemble plus à du foutage de gueule. En fait, il faut accepter que ça fonctionne comme ça, ou pas, mais en tout cas que ce soit clair et qu'on ne te mente pas, qu'on ne te raconte pas une histoire, et que oui, tu risques d'avoir, de la même façon l'année prochaine, des changements un peu bizarre, auquel tu t'attends pas, pourquoi il va là, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. L'entrée, c'est vrai que tout ce qui s'est passé cette année, c'est absolument rocambolesque, on n'avait jamais eu ça, mine de rien, dans le foot. Mais encore une fois, s'ils refont un exploit, déjà, ils en ont fait un, là, le match contre Mayence, ça a fait kiffer quand même toute la ville.
Un exploit, Valcano, c'est quand même pas un exploit, 11e budget de Liga.
Non, dans le sens où je retourne un match.
Oui, d'accord.
Si, pour Strasbourg quand même. Enfin, ils n'ont jamais fait ça, Strasbourg.
Okay, ils n'ont jamais fait ça, mais le budget qu'il y a, les joueurs qui
sont. Rayo Vallecano, c'est censé être plus facile que
Strasbourg. Si tu ne me dis pas là, si tu les sors en double confrontation, ok.
On n'a jamais parlé autant de Strasbourg que cette saison.
Ça, c'est vrai. Et Jean-Louis n'a jamais fait autant d'avis, d'ailleurs.
Exactement.
Deux.
Strasbourg n'a jamais fait dans une saison deux matchs de Coupe d'Europe de suite, la Méno pleine à craquer et avec un retournement de score. Et peu importe qui est en face, on parle que de Strasbourg, sans offenser personne.
C'est tout le temps.
Et avec, dans la foulée, peut-être une finale, même de Conference League.
pardon, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à Strasbourg. Donc Blouko, que ça plaise ou pas, avec toutes les erreurs, et moi je veux bien me mettre avec toi pour dire que c'est des erreurs, hein, mais à la direction, on dirait.
Ouais, mais ouais, c'est pile ou face quand même la fin de saison, Daniel.
On a Chelsea.
Parce que jeudi soir, si ça passe pas, tu dis quoi?
Bah, ce que j'ai dit la semaine dernière, ils se sont mis dans un cas de figure, ouais, ça peut être échec total.
Même en termes d'image cette saison, le fait d'avoir bazardé la Ligue 1, le fait de qu'est-ce que tu fais?
Jeudi soir, tu dis quoi? Faut avoir un peu de recul sur rouge noir ce club.
Oui, mais c'est quand même rouge noir.
Jeudi soir, tu te fais éliminer en demi-finale de Coupe d'Europe. Et tu n'as jamais été en demi-finale de Coupe d'Europe.
Oui, d'accord.
Quoi qu'il se passe,
oui, mais
c'est un truc jamais vu.
Cette année, il y avait quand même.
Ce sera une déception, oui, mais c'est un truc jamais vu.
Oui, mais c'est un gâchis de dingue en termes d'image par rapport à la perte du coach, par rapport à la perte de ton capitaine.
Mais image pour qui, en fait?
Bah moi, je sais pas, j'avais un intérêt moi, pour Strasbourg cette saison, enfin pour les supporters même. On leur a donné envie, etc.
Encore une fois, je pense pas que les supporters de Strasbourg, s'ils mettent bout à bout les moments de kiff dans une saison, ils en ont eu autant que cette année.
Mansour bout à bout.
Hein, oui. il y en a pas eu. Et nous, on n'a jamais autant parlé de ce club.
Ah, donc maintenant, en fait, on va juger une saison à l'applaudimètre, quoi, ou au nombre d'avis qu'on a dans l'afterfoot, en fait. C'est ça le...
Et tu la juges à quoi, alors?
Bah, je sais pas, moi, je la juge aujourd'hui au budget, aux joueurs qu'ils ont amenés, au salaire qu'ils donnent.
Mais ils ont les performances, les matchs que t'as vus cette année Strasbourg, tu les avais déjà vus dans une autre saison?
Oui, mais j'en ai vu trop peu. Enfin, l'année dernière, moi je te disais, est-ce qu'il faudra voir l'année dernière quand ils font 6-7ème, là, jusqu'à quand ils se vautrent sur les deux derniers matchs?
Nouvelle période, oui, le nouveau Strasbourg.
En fait, c'est bon, on est passé à autre chose sur le petit Strasbourg. Le Strasbourg de Persic et de.
Ça va, on est passé.
Et encore, ils étaient 6ème de Ligue 1 avec Persic.
T'es dans une évolution qui est. T'es dans une évolution qui est.
Avec Niamsi et Lienard.
Ce qu'ils font l'année dernière, cette année demi-finale de Coupe d'Europe à la maison où ils peuvent faire encore une très belle
partie. Rendez-vous jeudi.
Ils sont dans quelque chose d'important.
Rendez-vous jeudi soir.
Ils sont dans quelque chose qui est positif.
Dans un instant, le Paris FC, car il y a des infos à partager et puis il faut que chacun donne son avis sur l'avenir du coach. Faut-il garder Comboiré ou pas? Des infos à venir dans quelques instants. Supporters du PFC, on vous attend. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h50, Pauline Dacherchour est là, Jean-Louis Tour, Daniel Riolo. Paris FC, alors une petite info mercato Paris FC avant de parler d'Antoine Comboiré. Vous savez que l'homme qui monte au Paris FC, c'est Moustapha Mbo, capitaine.
Ouais, il y a beaucoup qui montent. Martondo, ça monte. Il y a un paquet là.
Donc Comboiré lui fait
Coupola
confiance.
Aussi que j'aime bien derrière moi.
Et Coléocho.
Coléocho, très
j'aime beaucoup ce joueur.
Très bon joueur en sortie de banc.
Sur cette fin de saison le PFC découvre pas mal de
joueurs. Mbo, l'Europe entière le veut. Fabrice Hawkins et Aurélien Tirsa nous envoient ça. Mbo, il y a Crystal Palace, Fulham, West Ham, Liverpool, des clubs de Bundesliga. Bref. Ah. Il y a du pot, il y a de la vente peut-être à venir pour le Paris FC.
Ils ont encore fait un match hier contre
Brest. Ça va être intéressant le Paris FC parce que qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de mercato? Est-ce qu'ils vont vendre justement ce genre de joueurs? Est-ce qu'ils vont dire non, on garde? Et puis surtout,
je pense qu'à la fin de la saison, on aura le patron qui va venir dans la star.
Et puis
pour
surtout,
nous l'expliquer, non
Mais déjà le mercato de janvier.
Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec le coach?
Déjà, le mercato de janvier était bien meilleur que celui de l'été.
Alors qu'est-ce qu'on fait avec le coach? Donc Matondo. Qu'est-ce qu'on fait avec le coach? Je vais te le dire. La tendance très très lourde à plus de 80% maintenant, c'est que Comboiré reste. Il a gagné sa place tout simplement sur le terrain parce que c'est vrai que depuis qu'il est là, les résultats sont stupéfiants. Il y a la défaite qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, enfin qu'il a beaucoup fait parler lui d'ailleurs, et on pourrait parler de ce qu'il a fait en conf avec certains de nos confrères,
avec Clément Brossard d'RMC.
Que ce soit Clément Brossard parce qu'il est de chez nous, mais que ce soit avec n'importe qui. En fait, j'arrive pas. Bon, on fait une parenthèse là-dessus, mais je comprends pas l'idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie entre l'acteur du foot et le journaliste.
Ah, je pense sur l'âge.
Non, je pense pas du tout que ce soit ça.
Je pense que c'est plus tu dois le respect à tes aînés. Et donc tu dois vous voyez quelqu'un de plus vieux. Ce qui demande son âge à Clément juste après. Je pense que c'est ça l'idée de base.
Ok, et donc, d'où on te parle comme ça en fait?
Ah, après c'est autre chose.
Alors, mais Daniel, après ça, c'est une question
d'éducation. On te parle de cette phase.
C'est une question d'éducation et de façon de voir la vie. Moi, quand je croise une personne plus âgée que moi, j'ai tendance à la vous voyez. Spontanément.
Ouais, mais c'est vrai que la première fois, mais là il y a un petit jeu.
Et si Comboiré franchement... te répond de cette façon-là, tu trouves ça normal toi en conf?
Parce que je l'aurais pas tutoyé.
Excuse-moi, il est venu ici, on l'a tutoyé pour l'interview.
Et puis même moi je le tutoie parce que dans la vie, je sais pas, on a joué au golf ensemble, il se trouve que voilà, je m'appelle comme ça.
Moi j'ai bien aimé derrière, quand il dit je ne connais pas coach, et Clément lui dit non, mais vous êtes pas mon coach, donc pourquoi on devrait l'appeler coach aussi?
Non, mais de toute façon,
c'est Luis Enrique qui fait la même chose,
c'est pas une histoire en fait.
C'est pour ça que
oui, c'est cohérent.
Je suis en train de te dire que c'est. Mais il y a personne en fait, personne, j'admets qu'un coach parle comme ça, un journaliste, en fait, à partir de quoi, d'où en fait on parle comme ça? Tu lui dis une fois, mais pas sur ce ton.
Tu lui dis très, écoutez, moi je préfère qu'on me vous voie et basta. Mais pas avec ce ton, genre le prof à l'élève. C'est pour ça que je parlais de rapport hiérarchique. À quel moment? Mais évidemment que le coach du PSG a cette idée-là, ou mais beaucoup de coachs comme ça. Mais d'où, enfin, on n'est pas leur larbin, quoi.
Non, mais d'ailleurs, pour aller dans ton sens, ça, en fait, les mecs. Moi, ce qui me choque plus, c'est qu'on choisit le thème des questions, comme, parce que derrière, qu'on boirait dit, vous voulez me parler du PSG alors que j'ai un match, etc. Comme Luis Enrique a dit, pas de questions sur Lorient.
Exactement.
Bon, on vient avec des questions.
C'est Trump en conférence de presse, quoi. Ouais. Je choisis le mec qui me pose la question, je choisis la question.
Mais non, enfin, c'est pas quand même.
C'est le même principe. Déjà, on pose la question qu'on a envie et le thème qui nous intéresse. C'est-à-dire, au PSG, ils vont pas nous reprocher de pas s'intéresser à PSG Lorient alors qu'eux-mêmes ne s'y intéressent pas. Et qu'ils ont tout fait pour que la Ligue 1 ressemble à ça. Peut-être que l'entraîneur du PSG devrait plutôt aller voir son patron et lui dire, mais la Ligue 1, si elle est dans cet état, c'est pour quelle raison? C'est à cause du président de la LFP que vous avez défendu et qui a ruiné tout le monde. C'est pour ça qu'après, on pose plus de questions sur mon club. Bon, bref, je voulais pas dévier sur Luis Enrique, je reste sur Comboiré. J'admets pas la façon dont il a parlé. Il a pas parlé comme ça aux gens. Tu peux très bien dire à quelqu'un, écoutez, moi, je préfère qu'on me vous voie. Et t'es pas obligé de lui dire, quel âge t'as? D'où tu me parles de Dieu? Mais ça va pas ou quoi de faire ça?
Surtout qu'il y avait eu la première histoire, notamment dès qu'il était arrivé, avec une autre journaliste.
Il y a une autre façon de le faire, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Ouais. Donc, en revanche, sur le sportif, je pense qu'il a totalement mérité sa place et ce qu'il a montré est réellement un plus. Genre, le PFC a changé de visage dans l'ambition, dans le caractère. Et il y a en plus, je crois, de la part des patrons. Alors, l'idée de départ était quand même qu'on finit la saison avec lui et pendant ce temps-là, Marc Onep, tu vas me trouver un entraîneur. Sauf que l'entraîneur, bah, il faut que, en gros, ça pète un peu, quoi, dans le nouveau projet, que ça donne envie. Et ce nom-là, il n'existe pas actuellement. Il n'y a pas ce nom-là, à moins de convaincre Jürgen Klopp, mais Klopp, j'ai l'impression que tout le monde doit le convaincre. Le Real et le PSG, il y a une sorte de petit gap encore entre les deux quand même. Hein. Donc, et je ne suis même pas sûr qu'il aille dans ni l'un ni l'autre, enfin, on verra bien. Donc aujourd'hui, et il y a aussi l'autre élément qui est le PSG avec Comboiré en 2012, ils l'ont viré alors que ça se passait très très bien pour le projet. Et on a peut-être pas envie de faire ça en termes d'image, virer l'entraîneur qui finalement non seulement nous a sauvés, mais nous a redressé au classement, a fait qu'on gagne des matchs, ça se passe bien, on parle de façon très positive du PFC. Je n'ai pas l'impression que ce serait la décision du siècle de le virer maintenant. Après tout, il a gagné sa place.
Non, mais il le mérite.
Il a fait ses preuves, il le mérite. Et c'est pas plus mal de compenser le mérite. Et surtout, il a envie. Alors que nous, on pensait, en tout cas moi pour ma part, et je lui ai dit à lui aussi, je pensais qu'il n'avait plus envie. Je pensais qu'il n'avait plus cette envie-là de construire
même moi, je pensais qu'il n'était pas fait pour ce
projet. Alors qu'en fait, il en a envie.
D'ailleurs, je renvoie au podcast, il était là dans l'after il y a quelques
alors,
semaines.
Alors, Antoine Comboiré, s'il en a envie, eh ben, si t'en as envie, que t'es à nouveau motivé à fond, que t'es là, ben, vas-y, quoi, parce que dans ta carrière, tu as montré que quand on te donnait les moyens et quand on te faisait confiance, tu rendais. Mmh. Et ben alors le PFC doit continuer. Et je le répète, c'est une information, la tendance très très lourde est à ce qu'il reste.
Après, il le mérite totalement. Il y a un peu le même débat en ce moment en Angleterre avec Michael Carrick à Manchester United, où il les a ramenés troisième en Ligue des Champions. Et il y a Iraola qui est pressenti. Mmh. Et c'est toujours les mêmes débats où en Angleterre il y a des pour, il y a des contre. Pour le coup, Comboiré, sa candidature est légitime. Et moi, je le dis d'autant plus parce que quand il est arrivé, je comprenais pas le choix par rapport à ce qu'il avait produit à Nantes, par rapport aussi aux échos qu'on avait sur ce que vient d'évoquer Daniel, sur sa véritable volonté d'être cet homme de la situation. Et en plus, il a même dans le jeu, je trouve qu'il a apporté une fraîcheur dans cette équipe. Je l'avais dit depuis un moment, mais il a choisi entre Kebal et Maxime Lopez parce que les deux jouaient trop à la baballe pour mélanger du joueur athlétique, du joueur percutant et de la qualité technique. Et ça marche très très bien. Il y a des joueurs qui arrivent à s'épanouir. Maintenant, je serais pas non plus sur le cul si on arrive en novembre ici dans l'émission en disant en fait Comboiré, il est dans une mission très très spéciale l'année dernière et aujourd'hui, il y a des ambitions qui sont très très différentes et ça marche pas. C'est ça qui est dur dans le football, c'est qu'il y a cet entre-deux où, pour moi, il mérite de continuer.
Je suis pas sûr, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un club un peu stable.
Mais je serais pas non plus.
Dernière info que je vous glisse.
Qui?
Ferland Mendy.
Ferland Mendy. Ça fait 5 ans qu'il est pas en équipe de France, Gilbert.
Il est blessé. Il est forfait.
Ah oui. Michel Platini aussi apparemment.
L'international du monde. Contrairement à Julien Cazard qui a pris sa retraite.
J'ai pas annoncé ma retraite internationale, pardon.
Ah, t'as pas annoncé?
Ben non, franchement, j'ai encore ma place dans l'équipe de Belgique.
T'as fait comme Franck Ribéry.
Hein, oui, c'est ça. Mm. On va parler vélo aujourd'hui.
Paul Sexas.
Ouais, par rapport à Paul Sexas, évidemment. Ouais, on va parler des blibli, grands moments de vélo qu'on a vécu, qui nous ont fait kiffer. Et il y a un petit peu d'art comme du cop.
Andy Schleck, on l'adore. 2010-2011.
Lenny Lucas a enchaîné, t'es sur une semaine historique du foot français avec deux clubs peut-être en finale. Et lui, il fait une émission sur le vélo. Mais c'est, on est où là?
Tu découvres pas qu'il parle pas de foot quand même.
Bah non, je parle pas de foot. Plutôt que quand je vous écoute parler, je me dis, vous allez peut-être pas parler de foot parfois. Enfin, c'est encore un autre sujet. Non, mais on a toute la semaine pour en parler de Strasbourg, Gilbert.
Très bien. Et tu vas à Munich?
Bah, ah non, malheureusement, non. Je suis dégoûté à cause de cette émission à la con, là. Je peux pas y être. Alors que c'est chez nous maintenant, Munich. C'est chez nous.
Les Lucas a enchaîné. C'est tout de suite. À demain soir, juste après le match entre Arsenal et l'Atlético. L'after sera là.
RMC, l'after foot.